ici que j'ai simplement replié. Ça disait, passez-vous la journée à réfléchir pour trouver les choses que vous allez dire le soir? Ce serait toute une journée, ça, n'est-ce pas? Non, mon frère chrétien, je ne décide jamais d'avance ce que je vais dire en chair. Je lis un passage de l'Écriture à un certain endroit. Et il m'est arrivé à maintes reprises d'annoncer que j'allais prêcher du haut de la chair sur un certain sujet. Et quand j'arrivais, le Saint-Esprit me faisait carrément changer de direction, me faisait aborder autre chose. J'ai essayé ça deux ou trois fois, de rédiger des notes et de prêcher en suivant ces notes. Tant que je regarde ces notes, ma pensée n'est plus sur Dieu. Alors voilà, je dois les chiffonner et balancer tout ça. Que ce soit ce qu'il dit, un point c'est tout. Parfois, je commence dans la Genèse et à la fin, je me retrouve dans l'Apocalypse. Je ne suis pas un très bon ministre pour ce qui est de je dois recevoir mes messages d'en haut. Comme je le disais, là, je lis un passage de l'Écriture sur la marque de la bête. Ma femme, ma mère et les autres le savent. Ma belle-mère assise là et parfois à la maison. Et vers 3 heures de l'après-midi, je me mets en prière. Je me retire, je me mets en prière. Ensuite, je pars. Avec cette pensée, eh bien, j'ai dit que j'allais prêcher ce soir sur la marque de la bête. Alors j'y vais. Et j'ai apporté ce soir, pour répondre là, une concordance Cruden, dans le but de trouver les réponses, ou pas les réponses, mais vous savez ce qu'est une concordance. C'est une liste de tous les mots qui figurent dans la Bible. Donc, je cherche dans la concordance pour trouver, à un certain moment, le passage auquel se rapporte la question de la personne. Mais pour la plupart, et je vois justement l'un de mes amis que j'ai rencontré dans un magasin, ou près d'un magasin cet après-midi, qui nous discutions de ces questions et tout, comme ça. Or, toute ma vie, j'ai eu, depuis que je suis ministre, j'ai eu à mener un combat avec presque tout. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Tout ce que j'ai appris, c'est lui qui me l'a dit. Et alors, je m'en suis simplement tenu à cela et j'y ai cru. Et j'ai eu à combattre pour presque tout ce que je crois, partout dans le monde. Là-bas, en Afrique, à différents endroits, et sur le champ de mission à l'étranger, on trouve des ismes auxquels l'Amérique n'a même jamais pensé. Et là, on est confronté à tout ça. Mais l'essentiel, et ce à quoi je me suis toujours efforcé de me tenir, c'est cette parole, ceci. Voyez, pas juste un passage de l'Écriture, mais il faut que tout se tienne d'un bout à l'autre de la Bible. En fait, on peut prendre un passage de l'Écriture et lui faire dire n'importe quoi. Savez-vous que les incrédules se servent de la Bible comme manuel pour alimenter leurs débats? Bien sûr, mais il faut que ça dise la même chose d'un bout à l'autre. Maintenant, excusez-moi de l'exprimer comme ceci. Si je le fais, c'est pour notre instruction. La Bible est comme un puzzle morcelé. Exactement. Et vous devez fixer les yeux sur Jésus-Christ, le modèle, pour savoir comment l'assembler. Sinon, si vous vous fiez à votre propre opinion, tout à coup, vous retrouverez dans votre tableau une vache qui broute au sommet d'un arbre. Ça ne marchera pas comme il faut. Mais si vous laissez simplement le Saint-Esprit agir, n'utilisez pas votre propre pensée quand vous étudiez la Bible. Si vous essayez d'utiliser vos propres connaissances ou votre propre pensée, vous allez vous égarer, à coup sûr, chaque fois. Voyez ? Car, comme Christ l'a dit, je l'ai caché aux yeux du séminaire, des sages et des intelligents, et je le révèle aux enfants qui peuvent apprendre. Voyez ? Je l'ai caché. Alors, aucune école, ni aucun comité, ni aucun conseil d'église n'enseigne l'Écriture correctement. Ça, c'est énorme comme déclaration. Ils ont beau posséder beaucoup de vérités, mais le Saint-Esprit révèle cela à des individus. C'est pourquoi le Saint-Esprit est destiné à des individus. Et c'est ce qui fait que les organisations écartent les gens du chemin de Dieu, à tout coup. En effet, Dieu donne toujours du nouveau. Constamment, il poursuit son chemin, comme ça. Mais ceci reste toujours le fondement. Observez et voyez comment tout cela se déploie dans la Bible. Et regardez comment tout cela se déploie dans le temps. Alors, vous pourrez voir vers quoi vous vous dirigez. Maintenant, quant à ces réponses, comme je vous l'ai dit, je suis un bien piètre docteur. En revanche, je tiens à dire que ce que je sais sur ces choses, je désire l'expliquer aux autres. Et si vous n'êtes pas du même avis et que vous dites « Eh bien, frère Branham, je ne le crois vraiment pas de cette manière », c'est en ordre. Ça ne nous empêche pas de continuer à être frères, voyez. Nous sommes frères. Voilà. Si vous voulez être un être membre du temple de la continuité. Vous savez, moi, ça ne me dérange pas. Voyez, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, nous continuerons à collaborer ensemble et à avancer. Et je crois qu'une bonne sanctification à l'ancienne mode amène à avoir ce même sentiment. N'est-ce pas? C'est vrai, amène l'entente entre nous. Comme cet homme qui était ici même hier soir, qui occupe un poste de ce rang. Et j'ai rencontré, voici l'archevêque de l'Inde, qui compte plus de 470 millions de personnes. Il est venu, il avait entendu parler de ces choses, et il est venu. Il a dit, est-ce la vérité? J'ai dit, oui. Il a dit, comment puis-je recevoir le Saint-Esprit? Par l'imposition des mains. Je lui ai imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Il était présent à Chicago, il y a quelques semaines, à la grande réunion des hommes d'affaires chrétiens. Il a dit, je me suis fait imposer les mains là-bas, par tous les cardinaux et tout. Les grands hommes, les grands évêques et tout, m'ont imposé les mains quand ils m'ont ordonné archevêque de l'Inde, archevêque de l'église épiscopalienne de l'Inde et président de la fraternité chrétienne de l'Inde, la plus grande distinction religieuse décernée en Inde. Il a ajouté, lorsqu'ils m'ont imposé les mains, il ne s'est rien passé. Il a dit, je suis venu voir un homme qui sait à peine son alphabet. Il m'a imposé les mains et j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, bizarre, n'est-ce pas? Voyez, donc, cela ne s'obtient pas par l'instruction ni par la connaissance. Cela s'obtient en s'humiliant devant Dieu. C'est vrai. Et ensuite, voici ce qui vous fera reconnaître que vous êtes chrétien. Les fruits que vous portez. Bon, donc, pas les cris que vous poussez. Pousser des cris, je crois à ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas si vous poussez des cris ou non. Ou si vous parlez en langue ou non. Ça, je crois au parler en langue. Ce qui compte, ce n'est pas si vous guérissez les malades ou non. Je crois à la guérison. Mais voici les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la patience. C'est ça le fruit de l'esprit. Voyez? Et si ces signes vous accompagnent, alors voilà. Je crois bien que c'est ce que Jésus m'a dit de rechercher. Il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand vous aurez, c'est ça, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres, bien que cet homme ne soit peut-être pas de votre avis, vous l'aimez quand même. Voyez? Oh, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les pécheurs en font autant. Voyez? Voyez? Mais vous devez aimer ceux qui vous haïssent. Pas juste faire semblant de les aimer, mais les aimer réellement. Réfléchissez à ça. C'est vrai. Amen est le mot qui convient. Voyez, si un homme vous hait réellement, s'il a prouvé qu'il vous hait et que du fond du cœur, vous l'aimez quand même, alors vous êtes très près du royaume. C'est vrai. Maintenant, ne vous contentez pas de l'aimer en disant, « Eh bien, je sais que c'est ce que je dois faire. » Mais aimez-le quoi qu'il en soit. Si vous ne l'aimez pas du fond du cœur, si vous dites que vous l'aimez, alors que vous ne l'aimez pas, vous savez ce que cela fait de vous? Un hypocrite. Voyez? Alors, il ne faut pas vous avancer vers lui pour lui dire que vous l'aimez, à moins que vous l'aimiez réellement. Et si vous n'avez pas ce sentiment-là, restez ici devant, jusqu'à ce que vous ayez ce sentiment. Parce que, je vous le certifie, il y a suffisamment de grâce pour vous amener à avoir ce sentiment. C'est vrai. Oui, réellement avoir ce sentiment. Maintenant, ces questions. Et souvenez-vous là, c'est comme dans les réunions. Toutes ces choses ne visent pas l'Église de qui que ce soit, ni la croyance de qui que ce soit. Pas du tout. Je suis simplement ici, dans mon petit tabernacle à moi, en train d'exprimer mes sentiments sur ces sujets. Voyez? Bon, et si vous n'êtes pas du même avis, ce sera en ordre. Savez-vous qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas deux personnes parmi nous ici, qu'il n'y a pas deux pouces pareils parmi nous, il n'y a pas deux nez pareils parmi nous. J'imagine que vous êtes content de ne pas avoir un nez comme le mien. Mais il n'y a pas ici deux personnes pareilles. Voyez? Et donc, nous allons avoir des opinions différentes. Bon, il se peut que moi, j'aime la tarte aux cerises. Et vous, la tarte aux pommes. Mais nous mangeons tous les deux de la tarte. Voilà le point. Alors, nous, c'est ça qu'il faut. Pourvu que nous aimions le Seigneur Jésus et que nous soyons nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes chrétiens. Or, l'Église ne peut pas produire cela en vous. C'est Jésus qui peut produire cela en vous. Voyez? Maintenant, à propos de ces questions, je les ai regardées. Il y a quelques questions assez épineuses parmi elles. Et alors, en donnant les réponses, maintenant que tout le monde garde bien ceci en mémoire, voyez, prenez-en bonne note. J'y réponds tout simplement de mon mieux par la parole de Dieu. Voyez. Et si la réponse n'a pas été donnée correctement selon votre, et que vous avez une autre question, eh bien vous, j'aimerais beaucoup que vous la remettiez sur l'estrade, ou que vous veniez nous en parler, ou s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. Peut-être que Fresneville et moi, ici, nous aussi, il pourrait arriver que nous voyons des choses sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et Monsieur Baxter, un de mes plus proches collaborateurs dans mes réunions, Monsieur Baxter, nous sommes associés depuis des années, et lui, c'est un commentateur de la Bible, un vrai, mais il ne croit pas au millénium. Je viens et je dis, « Frère Baxter, tu vas le contourner comment, ce passage de l'Écriture ?» Il fait un bond de côté et je dis, « Allons, ne fais pas la sauterelle, reste bien tranquille. » Vous voyez, j'ai dit, « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. » J'ai dit, « Que dis-tu de celui-là ?» Il a dit, « Je crois que 1000 ans, ça ne signifie là qu'une certaine période de temps. » J'ai dit, « Hé, une minute, tu optes pour une théorie. La Bible dit 1000 ans. » Oui, ils ont continué à faire des bons. Mais ils, voyez, nous n'avons pas cessé d'être amis à cause de ça. Qu'il y ait un millénium ou non, nous allons rentrer ensemble à la maison, au ciel, parce qu'il est né de nouveau et qu'il a le Saint-Esprit. Alors, je désire que vous ayez ce même sentiment devant ces questions. Ce que je vous exprime sur ces choses, c'est selon ce que moi j'en sais. Voilà tout. Et donc, si je voyais quelqu'un ici qui croit que Jésus arrivera monté sur un cheval blanc, tandis que moi, je crois qu'il arrivera dans une nuée blanche. Là, si je disais « cheval blanc », juste parce que mon ami croit au cheval blanc, alors que je crois que les Écritures déclarent qu'il arrivera monté sur une nuée, je serais un hypocrite, c'est vrai. Il faut que j'exprime ce que moi, je crois, et en donner la raison. Paul a dit « sois prêt en toutes occasions, insiste en toute occasion, favorable ou non, prêt à répondre à l'homme qui te demande raison de l'espérance qui est en toi ». Voyez, alors nous nous efforçons d'être comme ça. Or, ces Écritures, il me semble qu'il y en a quelques-unes ici qui sont seulement de petits commentaires et tout. Et je vais tâcher de répondre à celles-là pour commencer. J'ai d'ailleurs essayé de les mettre à part. Et il se peut que j'aie à prendre ceci, à utiliser la concordance pendant quelques instants, pour présenter quelques-unes de ces choses. Et alors ici, si je citais incorrectement ou quoi que ce soit, vous êtes parfaitement au droit de me le signaler et de m'écrire un mot pour m'en faire part. Maintenant, avant d'essayer d'aborder ceci, or, la raison pour laquelle je fais ceci, mes amis, je vous assure que c'est fait dans un but. Ça, vous le savez tous. Cette série de réunions a été faite dans un but. Je crois que Dieu m'a fait faire demi-tour dans cette tempête de neige là-bas et qu'il m'a fait revenir ici précisément dans ce but. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas ici, au tabernacle, depuis un bon bout de temps. Je veux trouver ce que c'est. Quand je l'aurai trouvé, alors je verrai si je peux changer la situation. C'est ça. Et je veux que l'Église avance dans une belle harmonie. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas, parce que vous ne faites pas de progrès. Vous amenez des gens au salut, c'est vrai, c'est merveilleux, mais vous ne faites pas les progrès que vous devriez. Nous devrions produire des prédicateurs et tout. Le message devrait continuer à avancer. J'ai déjà fait venir notre frère pasteur, et nous en avons connu de durs ensemble, Fresneville et moi. Et je veux voir si, comme je suis l'un de vos pasteurs, c'est mon devoir. Et hier soir, dès que je vois qu'il y a quelque chose dans l'église là, c'est pour ça que je n'ai pas fait de publicité pour cette série de réunions. J'ai simplement annoncé. Par contre, tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Nous voulons que vous veniez, mais c'est seulement dans cette église. Et je me suis dit, si je donne un enseignement le premier soir sur l'église d'aujourd'hui, sur l'âge, géographiquement, dans la Bible, dans quelle position nous nous trouvons. Alors, sûrement que l'Église prendra conscience de cela. Ensuite, je parlerai de la marque de la bête, pour leur faire voir ce que c'est. Et ensuite, du sceau de Dieu. Voilà en quoi consiste maintenant le pour et le contre. En quoi consiste maintenant les ténèbres et la lumière. Voilà maintenant ce par quoi on est soit inclus, soit exclu. Et c'est la chose primordiale qui doit, par-dessus toute chose, être enseignée maintenant. Et je vous le dis, mes amis, je dis ceci du fond du cœur, devant Dieu, humblement. Jamais je n'ai senti l'onction du Saint-Esprit m'amener à prononcer les paroles que j'ai prononcées au cours des 3 dernières soirées. C'est vrai, mais j'en ai été carrément transporté. Je rentrais chez moi et, après être rentré, je ne pouvais même pas trouver le sommeil, tellement l'onction était présente. Maintenant, je lance ceci devant vous, dans l'espoir de trouver quelque chose quelque part. Vous voyez, de saisir le sentiment général des gens, tout ça sur un bout de papier, ici. Et si je ne trouve pas par ce moyen-là et que le Seigneur ne me révèle pas ce qu'il en est, je persisterai tant que je n'aurai pas trouvé. Et Dieu me l'accordera. C'est vrai. Et donc, quand nous serons trouvés, il se peut que ce soit juste un petit lingot, enfoui quelque part. Mais à Caen aussi, il en avait un. Vous savez, nous devons nous débarrasser de cette chose-là. C'est alors que nous progresserons et que nous continuerons à avancer dans le royaume de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, avant que nous ouvrions la parole, et maintenant, bon, tous ceux d'entre vous qui ont un service d'école du dimanche demain matin, évidemment, vous, je ne vous demanderai pas de manquer votre école du dimanche. Ça, c'est votre poste, à votre église. C'est vrai. Mais bon, si vous n'allez pas à l'école du dimanche, venez nous voir demain matin. Et puis, si à votre église, il n'y a pas de service en soirée demain dimanche, vous êtes les bienvenus ici. Nous serons heureux de vous avoir parmi nous, n'importe quand. Donc, que le Seigneur vous bénisse et transmettez mes salutations à tous les chrétiens. Je ne suis pas ici très souvent. Je regardais justement, là-bas dans le bureau, un bout de papier que j'avais écrit et qui est encore en souvenir, ici à l'église. Et j'avais dit, « Le Seigneur m'appelle à partir. » Et nous avons tous pleuré. Nous avons versé des larmes. Je me rappelle le premier soir où je suis parti. Est-ce que vous vous rappelez le premier appel que j'ai reçu? Quelqu'un ici? Vous avez recueilli l'argent pour que je puisse me rendre à Saint-Louis, où la petite Betty Dougherty a été guérie. Je suis resté, vous vous rappelez, j'avais emprunté un pardessus à quelqu'un ici pour pouvoir mettre ça. Je n'avais pas de manteau à me mettre. J'ai fait le trajet assis dans un vieux pullman pour me rendre à Saint-Louis. Vous vous rappelez cette fois-là? J'avais emprunté à un des frères un manteau qui était trop grand pour moi. Je le portais sur mon bras parce qu'il faisait frais et que je n'avais pas de manteau. Alors, nous y sommes allés. Je suis allé à Saint-Louis où j'ai rencontré frère Dougherty, sa petite fille, tous les médecins de là-bas. Les spécialistes et les hôpitaux avaient abandonné son cas. Elle s'agitait comme si elle était folle alliée. Des ministres de partout dans la ville avaient, de partout, ils étaient allés là-bas prier pour elle. J'y suis allé et j'ai prié pour elle. Et ces pauvres gens, oh, ce qu'ils avaient l'air sombre. La petite fille était là, elle hurlait, elle pleurait, elle se débattait. Et elle n'arrivait même plus à faire des bruits d'être humain. À l'entendre, on aurait dit un animal. Tellement elle s'était enrouée à force de... Oh, ça faisait environ 3 ou 4 mois. C'était une méningite cérébrospinale. Ou, non, c'était la danse de Saint-Guy dans la colonne vertébrale. Ses petites lèvres étaient toutes rongées, ensanglantées. Et ses petits doigts étaient tout ensanglantés, partout où elle se mordait les doigts et tout ça. Et elle hurlait et s'agitait sans arrêt. J'ai prié, je suis allé à l'église. J'y ai attendu pendant des heures et des heures. Je me suis assis dans la vieille voiture et j'y ai attendu. Je n'allais pas abandonner ce cas avant d'avoir entendu quelque chose qui venait du ciel. Pendant que j'étais assis là, dans la voiture, une vision est apparue devant moi. Il m'a été dit, « Va dire à son père. » Et au père, il m'a été dit, « Va dire à cette femme que l'autre jour, en ville, elle a acheté une petite bouilloire blanche. Il n'y a encore jamais eu d'eau dedans. » Et il m'a été dit, « Dis-lui de regarder dans le troisième tiroir qu'elle y trouvera un mouchoir qui est enveloppé dans du papier et qui n'a encore jamais servi. » Dis-lui de la remplir d'eau, que le Père se place à ta droite et le grand-père à ta gauche, et récite Notre Père qui es aux cieux. Dès que tu commenceras, qu'elle lui passe le linge sur le visage, puis, au milieu de la prière, qu'elle la touche sur les mains et ensuite sur les pieds. Après, lève-toi et dis Ainsi dit le Seigneur. Vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Elle était guérie aussitôt. La main dans la main, nous avons descendu la rue et nous avons bu une boisson gazeuse ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un grand émoi dans Saint-Louis. À ma réunion là-bas, il y a eu 14 000 personnes le premier soir. C'est vrai. À Saint, c'est vraiment dommage que j'ai délaissé cette pratique et qu'on fasse plutôt passer les gens dans une ligne, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Allez simplement chez quelqu'un et restez là jusqu'à ce que ce soit réglé et rentrez ensuite. Je crois que ça aurait été mieux que ce qu'on a dans les réunions. Très bien. Inclinons la tête pendant que nous parlons à l'auteur de cette parole maintenant. Par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi, notre Père. Et c'est en son nom que nous implorons ta miséricorde divine. Te demandons de pardonner les péchés et les offenses que nous avons commis contre toi. Et s'il y a un péché dans cette petite église ce soir, nous prions, Seigneur, en tant que serviteur qui se tient ici, en tant que berger des brebis. Comme la Bible dit, Prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, afin que vous le paissiez. Et maintenant, Père, j'intercède pour eux, te demandant de les bénir et de remettre tous leurs péchés. Guéris les maladies qui se trouvent au milieu de nous. Et Père Céleste, je prie que ta miséricorde repose sur nous maintenant. Voici devant moi des demandes qui ont été mises par écrit et qui proviennent de bien des foyers et de bien des personnes. Elles sont là, des questions très profondes sur la Bible qui exigent plus qu'une instruction ordinaire. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Je viens tout juste de les prendre en entrant dans la pièce. J'ai prié, je suis ressorti, je les ai triés ici, d'une part celles auxquelles nous aurons à répondre maintenant, et d'autre part les autres pour lesquelles il faudra consulter l'Écriture. Voilà tout ce que j'en sais pour le moment, Seigneur. Et je te prie de prendre dès à présent la relève et d'oindre ton peuple ici ce soir, les lèvres de celui qui parlera, les oreilles de celui qui écoutera. Que le Saint-Esprit vienne maintenant se saisir de la parole et qu'il la fasse pénétrer dans chaque cœur, qu'elle soit reçue avec un esprit de bonté et qu'elle soit aussi présentée ainsi. Et puissions-nous, quand la réunion sera terminée ce soir, puissions-nous rentrer chez nous en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous à cause de sa présence et de ses bénédictions ?» Seigneur, ne sachant pas ce qu'il faut dire, je m'en remets à toi, au nom de Jésus-Christ, pour la réponse à ces questions. Amen. Merci, mes amis, pour votre respect. Je veux juste vous montrer là en quoi consistait bon nombre, en fait, la plupart de ces questions. Frère Bill, s'il vous plaît, continuez, restez la semaine prochaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. S'il vous plaît, restez un peu plus longtemps. Frère Bill, s'il vous plaît, restez la semaine prochaine. Un peu plus longtemps, nos âmes ont faim de ce genre de nourriture. Est-ce qu'ici, à cette église, on enseigne que celle-là, elle s'est juste retrouvée là, elle est au mauvais endroit. J'ai deux garçons âgés de deux... Celle-là, on dirait que je les ai mélangés, là. Bon, celle-ci aussi, je ferais mieux de la placer là. C'est une affaire qui regarde quelqu'un personnellement. Frère Bill, aimeriez-vous rester encore une semaine? Nous aimerions avoir encore une semaine de cet enseignement de l'Évangile. Ma demande, c'est que vous restiez encore une semaine. J'aimerais beaucoup que vous restiez encore un peu. Vous savez, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Eh bien, est-ce que vous voudriez rester encore une autre semaine, s'il vous plaît? Frère Bill, s'il vous plaît, prêchez encore une semaine pour nous. Nous avons besoin de ceci. Frère Bill, ma prière est que Dieu vous fasse changer d'avis et vous fasse rester encore une semaine. Ma question est celle-ci. Les soucoupes volantes, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas que c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu comme signe? Et je vous demande aussi de rester encore une semaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. Bon, ici, il y en avait une autre qui disait que j'apprécie qu'on ait demandé cela. Et le Dieu Tout-Puissant, qui est mon juge, présent maintenant en ce lieu sacré, avant que je quitte la maison, l'Esprit du Seigneur m'a signalé, m'a dit que cette question se trouverait ici ce soir. Je n'étais pas du tout au courant, mais je savais qu'elle se trouverait ici. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte fausse? Vous voyez, quelqu'un est le Saint-Esprit à cet endroit-là, alors que j'étais dans ma salle de bain avant de venir ici. Dieu, qui est mon juge solennel, m'a signalé, celle-là va se trouver sur l'estrade. Il m'a dit de ne rien dire là-dessus, de continuer, c'est tout, voyez? Alors, vous savez ce que j'ai dit hier soir, n'est-ce pas? Très bien, voilà ce que c'était. Très bien, maintenant nous allons commencer à répondre à quelques-unes de celles qui sont de ce côté-ci. C'est que je n'aime vraiment pas dénoncer une certaine chose en particulier et nommer une certaine personne ou un certain individu comme ça. J'aime plutôt enseigner la chose de manière à juste mentionner tout ça d'une manière générale. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Si je me tenais ici et que je disais, « Eh bien, Fresneville, il est ci et ça et telle chose », si je devais dire ça à son sujet, j'irais chez lui, je le ferais sortir et je lui en parlerais à lui. Vous voyez, je le dirais à Fresneville. Mais bon, ici, il y a des questions. Or, je ne sais pas par où commencer. Ici, il y en a un paquet. Il est dit, « Vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Que signifie l'image de la bête? » Bon, voilà une des questions qui ont surgi après que, probablement, que les gens les ont eues. Maintenant, je vais faire tout ce que je peux, avec l'aide de Dieu, pour y répondre de mon mieux. Donc, s'il veut bien me donner la connaissance, parce que, Dieu le sait, je viens tout juste de les prendre, ici, sur l'estrade. Donc, vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Maintenant, je vais répondre à celle-là d'abord, avec l'aide de Dieu. J'ai dit que l'Église catholique était, nous avons vu que la marque de la bête, avant-hier soir, ne pouvait pas venir d'ailleurs que de Rome. Pas vrai? Elle ne peut venir d'aucun autre pays que de Rome. C'est là qu'elle siège, c'est là qu'elle réside. Et j'ai dit que je n'ai rien contre les catholiques, rien contre qui que ce soit. Nous sommes tous des mortels qui cherchent à aller au ciel. Le pape est un individu qui enseigne des choses. L'archevêque de Canterbury en est un autre. Puis il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Et moi, je ne suis qu'un des enseignants, c'est tout. Eux, ils vont enseigner et peut-être déclarer que je suis un fanatique et que je suis dans l'erreur et tout. Et moi, je suis dans mon droit, si je peux le prouver par l'Écriture. Ou bien, si eux, ils peuvent prouver par l'Écriture que je suis un fanatique, alors je suis un fanatique. Par contre, si moi, je peux prouver par l'Écriture que leur système est faux, alors il est faux. C'est l'Écriture qui a raison. Et vous ne devez pas apprendre qu'un seul passage. Là, il faut que ça se retrouve d'un bout à l'autre de la Bible, partout. Or, j'ai dit que l'Église catholique était l'Église mère. Et c'est tout à fait exact. L'Église catholique est l'Église mère pour ce qui est des églises organisées. L'Église catholique est la toute première église à s'être formée aux environs de, d'après les éléments historiques les plus authentiques, ce serait vers l'an 606 de notre ère. Vers cette année-là, au moment des premiers pères, le deuxième ou le troisième groupe, après les apôtres, eux s'étaient éteints et on avait commencé à s'éparpiller dans de petits ismes. Et les Romains s'étant convertis, l'Empire romain gouvernait alors l'État. Ensuite, l'Église et l'État se sont unis. Ils ont fondé une religion appelée la religion universelle. Et le mot catholique veut dire universel. Ils ont organisé l'Église. C'était la toute première fois que la religion chrétienne était organisée dans toute l'histoire du monde. La religion juive n'a jamais été une organisation. Eux, ils étaient un peuple libre. Ils avaient des églises, mais ils n'avaient pas d'organisation. Dieu traitait là avec une nation et non avec une organisation. Ils étaient une nation. Et maintenant, donc, l'Église catholique a été la première organisation. Ensuite, nous sommes allés consulter la Bible pour voir quelle était cette organisation. Et selon la parole de Dieu, elle devait être contrôlée par un seul homme. Un seul homme. Et cet homme devait se trouver dans une église qui était assise sur cette colline, à Rome, selon la Bible. Il n'y a pas... Et il devait avoir un pouvoir de domination qui s'exercerait dans toutes les nations du monde. Un pouvoir de domination religieuse. Il n'y en a aucun autre dans le monde. Et le communisme, nous avons vu que ce n'était pas du tout l'Antichrist dont Jésus a parlé. Le communisme, ce n'est pas une nation comme la Russie. Le communisme, c'est un esprit. L'Amérique en est infestée. Il est dans les églises, il est dans les gens, il est dans les entreprises, il est partout. Le communisme, cet esprit-là, il est dans les écoles, il est dans les foyers, partout. Et alors, quand ils ont organisé cette église, ce qui était contraire, et là nous avons examiné les sept âges de l'église, la prophétie, exactement comme Dieu nous les a présentés ici au long de la Bible. Et nous avons vu par l'histoire et par la Bible, que chaque âge est arrivé précisément comme le rapporte la Bible, comme le rapporte l'histoire. Chaque âge est arrivé au moment prévu jusqu'à l'âge des ténèbres. Et c'est alors que l'Église catholique s'est formée à l'âge des ténèbres. Après quoi est venue la réforme, c'est-à-dire Martin Luther. Martin Luther a reçu de la lumière. Et cette lumière, c'était « le juste vivra par la foi », la justification par la foi à la réforme. Un prêtre allemand qui a nié, qui a déclaré que de prendre la communion, quand il tenait ça, ils étaient censés dire « ceci est le corps de Christ ». Et il a jeté ça par terre en disant « ce n'est pas le corps de Christ, c'est une hostie ». Donc, en faisant ça, il a abjuré l'Église catholique et il est sorti à la première réforme. C'est ce que Martin Luther a fait, et c'était là un merveilleux mouvement. Bon, mais la faute, là où Luther a fait son erreur, c'est que Luther a organisé un autre groupe, exactement comme l'Église catholique l'avait fait. Il a organisé les gens. Alors, un moment après, une nouvelle lumière est venue. Et quand la nouvelle lumière est venue, Dieu est sorti avec son peuple. Les gens qui s'étaient organisés dans l'Église luthérienne, eux, il fallait qu'ils restent avec leur Église pour pouvoir être avec les... Et c'était pareil pour les catholiques. Mais un grand nombre des catholiques étaient sortis, étaient devenus luthériens. Eh bien, alors, quand Wesley est arrivé avec le message de la sanctification, alors un grand nombre des luthériens n'ont pas pu quitter leur Église. Par contre, un grand nombre d'entre eux l'ont fait. Ils ont formé l'Église de Wesley. Ensuite, après la justification et la sanctification, la Pentecôte est arrivée. Et alors, la Pentecôte, ils ont été nombreux à sortir du méthodisme et tout, pour devenir pentecôtistes, parce que c'était une plus grande lumière. Maintenant, la Pentecôte est organisée, exactement comme toutes les autres. Or, la Bible dit que c'est direct comme terme, mais c'est dans la Bible que je vais les lire. Vous écoutez bien votre médecin et tout dire ces choses, et moi, je suis votre frère. J'enseigne ce qui se trouve dans l'Écriture. La Bible appelle l'Église catholique une prostituée. Une prostituée. P-R-O-S-T-I-T-U-E, accent aigu, E. Et il a appelé les églises protestantes qui ont suivi ses traces des mères, ou c'était des impudiques de cette mère. Et le rapport qu'il y avait, c'est que l'Église catholique a organisé la chose et a amené tous les gens à croire à la lumière qu'elle avait à cette époque-là, ou à ce qu'elle avait à cette époque-là. Les luthériens ont fait la même chose. Et la Bible dit qu'elle était une grande femme de ce type-là. Or, ce type de femme-là, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui vit, qui commet l'adultère. Et les églises commettent des fornications spirituelles avec les gens. Voyez, elle, ici, il y a la Bible qui enseigne ceci, et elle fabrique un tas de credos et tout, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et pendant, voilà presque 20 et quelques années que je me tiens ici et que je demande que n'importe quel ministre, n'importe quand, venez prendre, non pas votre manuel, votre credo, mais venez prendre la Bible et, à la lumière de la Bible, démontrer la fausseté de cela. Voyez, c'est vrai. Et pour ce qui est de contradiction, ils disent « contradiction ». Je suis allé jusqu'à offrir de donner 2 mois de mon salaire à toute personne qui pourrait me montrer une seule contradiction dans la Bible. Il n'y en a pas. Vous pensez qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Si la Bible se contredit, elle ne vaut rien du tout. On ne peut pas y croire. Chaque parole est inspirée et il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Donc, l'Église protestante, de par son organisation, est, selon la parole de Dieu, ainsi rattachée à l'Église catholique. C'est la même chose. Bon, je n'ai rien contre les gens qui sont catholiques. Quelques-uns de mes amis les plus chers, assis ici même en ce moment, ont été catholiques de père en fils. Tenez, avant-hier soir, que j'ai apporté un message dur par le Saint-Esprit au sujet des protestants et des catholiques, quelqu'un qui était catholique s'est avancé ici même devant l'autel et m'a serré la main. Ce sont des êtres humains exactement comme nous. On ne peut pas discuter avec les prêtres catholiques parce qu'ils ne croient pas que cette Bible est la totalité de la parole. Ils disent que c'est l'Église. Nous disons que c'est la Bible. Le catholique dit, nous les catholiques, nous allons à l'Église et nous adorons. Vous, les protestants, vous restez chez vous et vous lisez la Bible. J'ai dit, oui, vous allez à l'Église et vous adorez. Mais quoi? C'est ça qu'il faut voir après, vous voyez? Bon, mais Dieu a dit qu'il était dans sa parole. Ceci, c'est la parole de Dieu. Et je la crois. Je suis un adorateur selon la Bible. C'est pour cette raison que je me trouve en désaccord avec le protestantisme et quant à ces églises qui sont organisées, parce qu'elles enseignent des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors, je ne peux pas faire autrement qu'être en désaccord. Je ne me fâche pas avec eux. Non, monsieur, ce sont mes frères. Je ne me fâche pas avec eux, mais je suis en désaccord avec eux, parce qu'il faut que je m'en tienne à ce que Dieu dit et que tout le reste soit reconnu pour mensonge. Voyez ? Alors, c'est ça le rapport que... Et maintenant, la Bible dit que cette femme, l'Église catholique, qui était censée être appelée, dans la Bible, Apocalypse chapitre 17, une prostituée, qu'elle était la mère des prostituées. Et nous voyons que la Bible dit qu'une femme, ça représentait une Église. Et donc, si elle avait des filles, des prostituées, ça ne pouvait pas être des garçons, ça devait forcément être des filles. Donc, ça ne pouvait être que des églises. Et c'est le catholicisme qui a donné naissance au protestantisme. Et maintenant, ce qui vient ensuite, la bête, ou ce qui est dit ensuite ici, que signifie l'image de la bête? C'est une question qui a un lien avec l'autre. Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête. La Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai? Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifiait une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Et elles se sont organisées. Une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Si quoi que ce soit, si quelque chose était fait à mon image, ça devrait forcément me ressembler. Si quelque chose a été fait à l'image de cette Église, cela doit forcément ressembler à l'Église. Quelque chose a été fait, une bête. On a fait une image de cette bête, ce qui était le luthéranisme, le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme, le sainteté-isme. Tous ces ismes ont formé une organisation et ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Voilà, c'est ça. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire là, frère Branham, que tous les catholiques, tous les méthodistes et tous les baptistes vont aller? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau dans ces églises. Mais dans leur organisation, on cherche à les pousser vers un credo et eux, ils n'accepteront pas ça. Une église, quand elle s'organise, elle s'assujettit à un credo. Moi, je n'ai aucun autre credo que la Bible. Ceci est le credo de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui en est l'interprète. C'est lui qui présente cela, de lumière en lumière. L'évangile que je prêche aujourd'hui, si je restais en vie encore 100 ans, si c'était le cas pour nous, alors il y aurait encore plus de lumière. Constamment, elle est toujours venue. Autrefois, vous vous déplaciez en char à bœuf, votre arrière-grand-père, quand il allait voir grand-mère. Papa allait voir maman dans une Model T, mais maintenant, nous y allons presque en avion à réaction. Vous voyez, nous avançons. La science avance, l'éducation avance, l'évangile avance. Et la Bible dit, elle dit, on courra ça et là, et la connaissance augmentera. Donc, voilà le lien. C'est pour cette raison que les églises protestantes dénominationnelles sont l'image de la bête, parce qu'elles ont formé une dénomination exactement comme l'Église catholique. Et jamais Dieu n'a ordonné à son Église de s'organiser, dans aucun âge. Au contraire, il a toujours vivement condamné cela. Maintenant, est-ce que vous saisissez? Pas les gens, mais l'Église. Quand elles essayent d'assujettir les gens à une lumière de... Tenez, supposons que des gens essayaient de vous faire recommencer à vous promener en char à bœuf. Vous n'accepteriez pas ça. Nous vivons dans un âge meilleur. Et c'est pareil là-bas. Si quelqu'un essayait de me dire, « Oh, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci, cela. » Je vis dans un autre âge. C'est ça le problème avec les ministres. C'est qu'ils regardent toujours en arrière. Tenez, un savant français a dit, il y a moins de 300 ans, si jamais l'homme atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la terre. 50 km à l'heure. Eh bien, pensez-vous que la science ferait référence à ça aujourd'hui? Loin de là. Non, monsieur. Elle a réussi à lui faire atteindre une vitesse de 1500 ou 1600 km à l'heure. Oui, et parfois en fusée, où il atteint alors 2600 km à l'heure. Elle continue à le faire progresser. La science a fait progresser l'homme, progresser davantage, réaliser de plus grandes choses par sa propre pensée que ce que... Alors que lui, tout ce qu'il a, c'est l'arbre de la connaissance. Elle l'a amené plus loin que les ministres l'ont fait par son esprit, qui est illimité. Mais voici ce qu'il y a. La science ne regarde pas en arrière, vers ce que la science a déclaré il y a quelques années. La science utilise ce qu'elle a maintenant. Elle avance pour accomplir autre chose. Par contre, demandez quelque chose au prédicateur. Eh bien, on va voir ce que Moody en a dit. On va voir ce que Wesley en a dit. Que m'importe ce qu'ils en ont dit. Moi, je sais ce que Dieu en a dit maintenant. Ce qui compte, c'est ceci. Et je m'attends à de plus grandes choses encore. C'est ça. C'est pour cette raison que la Bible dit que trois esprits impurs sont sortis de la bouche de la bête. Vous savez ça? Des esprits impurs, il est dit, semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde la grenouille? La grenouille regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais en avant. Elle regarde en arrière, toujours en arrière. Regarde en arrière. Mais les quatre êtres vivants qui avaient quatre têtes différentes dans Ézéchiel, ils regardaient en avant et ils ne pouvaient pas reculer. Ils avançaient tout le temps. Partout où ils allaient, ils avançaient droit devant eux. Vous voyez la différence? Alors, voilà le rapport qui existe entre le protestantisme et le catholicisme. Donc, vous jetez toujours la pierre aux catholiques, mais la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. C'est vrai. Je dis, êtes-vous chrétien? Sachez que je fais partie de l'Église baptiste. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir. Pas plus que si vous disiez que vous faites partie, par ici, d'une ferme, quelque part. Voyons, je fais partie de l'Église catholique. Là encore, ça ne fait pas de vous un chrétien. De faire partie de l'Église baptiste ou de l'Église méthodiste, ça ne fait pas de vous un chrétien. Il n'y a qu'un moyen d'être chrétien. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Et vous ne pouvez pas arriver à ça. Vous ne pouvez pas produire ça par vous-même. Il n'y a absolument pas moyen pour vous d'arriver à ça. Il faut vous oublier vous-même, mourir à vous-même et laisser Christ entrer et vivre la vie de Christ en vous. Si un homme, voici ce que Jésus a dit, si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il n'entrera point dans le royaume. Qu'il soit catholique, méthodiste, baptiste ou quoi que ce soit, vous devrez être baptisé d'eau pour la rémission de vos péchés et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes perdu. Ça, c'est la parole de Jésus lui-même. Ainsi donc, si vous êtes méthodiste et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et avez été baptisé d'eau, Jésus a dit que vous entrerez au ciel. Si vous êtes catholique et que vous avez fait la même chose, vous entrerez au ciel. Par contre, si vous êtes là à vous cramponner au credo de l'Église catholique ou de l'Église méthodiste ou baptiste, vous êtes encore perdu. Et c'est pour cette raison qu'on est dans l'état où on est, dans le monde, aujourd'hui. C'est parce que les gens sont tout à fait... Ils disent, c'est contraire à ma croyance. Croyez-vous à la guérison divine? C'est contraire à ma croyance. C'est contraire à votre Église. C'est le credo de votre Église. C'est elle qui a fabriqué ça, vous voyez. Et il faut que vous fassiez ce que dit l'Église. Ensuite, vous poussez les hauts cris au sujet des catholiques. C'est la même chose que ce qu'eux font. Et c'est ça qui est la bête et l'image de la bête. Et la Bible dit que quiconque accepterait cela ne pourrait pas entrer dans le royaume des cieux, mais serait jeté dehors, là où sont les chiens, les magiciens, et ainsi de suite. Et serait tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, au siècle des siècles. Sortez de là, mon ami. Mettez-vous en règle avec Dieu. Oui, monsieur. Et maintenant, je vais répondre à ceci. Eh bien, nous allons y répondre tout de suite. C'est que quelqu'un m'a demandé ça aujourd'hui. On m'a demandé ça deux ou trois fois. Frère Branham, au sujet de la marque de la bête, ne croyez-vous pas qu'on va tatouer un nombre sur la tête ou tatouer quelque chose sur la main? Non, monsieur. Ne vous attendez jamais à ça. Ce sera un boycottage. Certainement, personne ne pouvait acheter ni vendre, à moins de faire partie de la Confédération des Églises. C'est vrai. Or, ce sera un genre d'union qui se formera. On syndiquera la chose. On en viendra à une religion syndiquée. Notez bien ce que je vous dis. Ce ne sera pas long. Vous verrez cela. C'est pour bientôt. La raison pour laquelle vous n'êtes pas au courant de ces choses, c'est parce que vous êtes toujours ici, au bercail. Accompagnez-moi là-bas, dans ces pays qui sont sous le contrôle du catholicisme, une fois, et vous verrez ce qui se passe. Frère, là-bas on leur dit, à tous, ce qu'il faut faire est ce qu'il ne faut pas faire. Et ici, la Bible dit que les États-Unis, nous l'avons vu dans la prophétie, sont montés semblables à un agneau, la liberté de religion. Et un moment après, ils ont uni ces choses. Ils parlaient comme un dragon et exerçaient le même pouvoir que le dragon avait eu avant lui. Ça, ce sont les USA. C'est vrai. Un ministre m'a dit, il n'y a pas longtemps, un ami à moi, il disait, « Frère Branham, Dieu ne permettra jamais que les États-Unis tombent à cause de la base sur laquelle se sont fondés ses ancêtres, la religion. » Je dis, « Pourtant, il a bel et bien laissé les Juifs être déportés. Ils avaient une bien meilleure position que nous dans ce domaine. » C'est vrai. Dieu n'a pas égard à une génération passée. Vous marchez droit, sinon vous êtes exclus du royaume. Voilà tout. Assurément, c'est assez percutant, mais c'est bon pour vous. C'est vrai, c'est l'Écriture. Le problème aujourd'hui, certains d'entre vous, les vieux de la vieille, savent ceci, c'est qu'on a trop d'évangélisation à la Hollywood. C'est vrai, trop de ces choses. On a beaucoup de vacarme et d'excitation, beaucoup de tape à l'œil et tout. On sonne de la trompette et ainsi de suite. Et qui veut se lever et accepter Christ comme son sauveur personnel? Que Dieu vous bénisse, frère. Vous allez au ciel à l'instant même. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si un homme ne naît de nouveau, et s'il naît de nouveau, la même bénédiction qui était venue sur lui là-bas viendra sur lui ici. Nous avons vu ça à plusieurs reprises en parcourant les Écritures pendant cette semaine dernière. Et nous avons vu que les Orientaux, quand le Saint-Esprit est descendu sur les Juifs, qui étaient un peuple oriental de l'Orient, le Saint-Esprit est descendu accompagné de grands signes et de grandes manifestations. La Bible dit qu'il y aurait un temps, presque comme si on ne pouvait même pas dire s'il fait nuit ou s'il fait jour. C'était en quelque sorte un jour nuageux, et ce, jusqu'à la fin, le soir. Et alors le soleil paraîtrait quelques minutes à la fin, le soir. Le soir, la lumière paraîtra. Pas vrai? Eh bien, il s'agit là des Occidentaux, les nations, qui reçoivent le même Saint-Esprit que les Juifs avaient reçu là-bas, accompagnés des mêmes signes et des mêmes manifestations. Voilà. Eh, les amis, bien sûr que le monde va vous traiter de fanatique, de timbré. La Bible, Jésus a dit qu'il le ferait. Vous êtes un peuple singulier et vous l'êtes bizarre. Effectivement, parce que c'est tellement différent. Je le remarque dans mon propre quartier, chez moi, les gens là-bas, ils, même mes jeunes enfants, nous essayons de les garder purs, de mener une vie tout à fait exemplaire. Mais on peut voir les voisins faire une discrimination entre les enfants. Voyez, ils font une discrimination. Et je sais, j'ai un moyen de savoir des choses. Et vous le savez, pour l'avoir vu dans les réunions. Je sais que les pasteurs de la ville disent, « Bon, eh bien, Billy est un bon garçon. Nous n'avons rien contre lui. » Mais vous voyez, c'est une classe de gens un peu différents de nous. Dieu merci, c'est vrai, Dieu merci. C'est ça, la marque. Voilà la marque dont nous parlons. Regardez, hier soir, alors que le Saint-Esprit avait prédit 1900 ans avant que les Juifs reçoivent le Saint-Esprit, il leur avait dit ce que ce serait. L'encrier, l'homme qui portait un encrier d'écrivain, est passé au milieu de Jérusalem et a fait une marque sur leur front. Pas vrai? Il en a parlé avant que l'Église ait été condamnée par Dieu. Et Titus a assiégé les murailles de Jérusalem en l'an 96 de notre ère. Et il a incendié la ville. Et il n'est pas resté pierre sur pierre, conformément à la prophétie. Aujourd'hui, tout ce qui reste du temple, c'est un vieux mur qui est là, des pierres qui ont été montées l'une sur l'autre. Et à force d'être frotté, il est devenu lisse. C'est là que les Juifs pleurent et se lamentent, là-bas, au mur des lamentations. C'est tout ce qui reste du temple. Et la mosquée musulmane d'Omar se trouve au même endroit. Et Jésus a dit, ce dont a parlé le prophète Daniel, « Lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation, établie en lieu saint. » Ensuite, il a souligné cela, c'est entre parenthèses, « Que celui qui lit comprenne. » Voyez, c'est vrai. Et voilà, c'était ça. Et il a dit combien de jours, d'époques il y aurait jusqu'à ce que les nations, que ces dispensations-là soient retranchées. Il foulerait au pied les murs, après quoi Dieu retournerait vers les Juifs. Et nous sommes précisément en ce temps-là. Voici les Juifs qui rentrent par milliers depuis quelques années. Et vous le savez, là, nous avons vu ça en détail hier soir. L'Écriture qui, de façon parfaite, c'est comme lire le journal, et c'est même plus clair, parce que là, vous pouvez mieux en saisir la signification. Mais quoi qu'il en soit, la marque qui était faite sur leur tête, ce n'était pas un tatouage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Le baptême du Saint-Esprit. est la marque qu'il y aura pour ce dernier jour, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que le sceau de Dieu était le baptême du Saint-Esprit pour les gens du dernier jour. Or, il n'y a pas Éphésiens 4:30. C'est pourquoi n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. La Bible parle, et dans Éphésiens 1:13, il est dit la même chose, et dans bien d'autres passages, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Un sceau, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas mettre un sceau sur quelque chose avant que ce soit achevé. Les luthériens n'ont pas été scellés. Le jour de la dispensation de la grâce n'était pas achevé. Ils prêchaient la justification. Les méthodistes n'ont pas été scellés. J'arrive à une question ici. Nous allons y venir un peu plus tard. Pas scellés, parce que ce n'était pas achevé. Mais le baptême du Saint-Esprit est l'achèvement des œuvres de Dieu. Il a dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils, ni le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Ils sont un. Il a dit, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'Esprit. Et ceux-là ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Voilà, dans un scellement complet. La justification avec Luther, l'eau, la sanctification par le sang. La justification, c'était Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification par la foi. La sanctification par le sang. Hébreux 13:12-13. Jésus a souffert hors de la porte afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Luc 24:49. Voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un baptême du Saint-Esprit qui devait durer jusqu'au retour de Jésus. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Vous ferez les choses que je fais. Vous les ferez, vous aussi, par son esprit qui agit à travers l'Église. Il a dit, on se moquera de vous. Il a dit, ils m'ont appelé, moi, qui suis le maître de la maison, Belzébul, le prince des diseurs de bonne aventure. Maintenant, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de choses. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est l'Écriture, vous voyez? Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, vous aurez à subir cela, forcément, mon ami. Or, vous devez faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre. Mais voilà le rapport qui existe entre l'Église protestante et l'Église catholique. Elles sont toutes les deux, selon la Bible, ceux qui s'attachent seulement à l'Église. Pas à Jésus, là, mais à l'Église. Les personnes qui sont dans l'Église et qui s'attachent à Jésus-Christ, qui prient Dieu de leur ouvrir la voie et de leur faire, de les éclairer, celui-là est sauvé. Peu m'importe dans quelle Église, il peut se trouver. C'est vrai. Mais s'il s'attache seulement à sa dénomination, il a pris la marque de l'apostasie, qui remplace le baptême du Saint-Esprit. Le contraire, l'Église catholique et l'Église protestante, l'une comme l'autre. La Bible dit qu'elle était une prostituée, qu'elles étaient des impudiques, ses filles. C'est clair maintenant? Très bien. Alors, le Saint... Est-ce que le Saint-Esprit se donne encore par l'imposition des mains? C'est ce qu'ont fait les disciples, Pierre, Paul et ainsi de suite. Est-ce encore possible? Paul l'a reçu de cette façon. Oui, mon cher frère, ma chère sœur, quelle que soit la personne qui a écrit cette note, absolument, le Saint-Esprit se reçoit par l'imposition des mains. Maintenant, bien des gens me disent, parce que je suis étiqueté comme pentecôtiste, ils disent que je suis pentecôtiste. Je n'ai jamais fait partie d'une dénomination pentecôtiste. Je suis absolument libre à l'égard de toutes les organisations. Et avec l'aide de Dieu, je compte bien le rester. Parce que je peux me tenir là, à la brèche, et dire, nous sommes frères. Venez par ici, réunissons-nous pour discuter. Au début, quand j'ai commencé, là, par la grâce de Dieu, et vous, ici, et mes secrétaires, et ceux qui sont assis ici le savent, je pourrais être en contact avec au moins 10 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Quelle organisation on pourrait fonder? Voyez, c'est vrai. Mais je ne veux pas d'organisation. C'est contraire à la Bible. Je fais tout ce que je peux pour amener les gens qui sont dans les organisations à recevoir le salut. C'est ça qu'il faut. Et l'influence que le Seigneur m'a donnée auprès des gens, certainement que j'en userai pour sa gloire. Au lieu de l'employer au profit d'une organisation, je l'emploierai au profit de Jésus-Christ, comme il se doit. Aucune organisation ne peut vous sauver. Il faut le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, pour ce qui est de l'imposition des mains, là, je ne serai pas d'accord avec... Bon, cher pentecôtiste, maintenant, ne vous fâchez pas avec moi. Mais bon, quand vous en arrivez à dire, « Nous irons attendre afin de recevoir le Saint-Esprit », combien ce terme a été employé par la Pentecôte? Et je dirais ceci par, sans vouloir vous blesser, le plus grand appui que j'ai sur le champ de travail, ce sont les pentecôtistes, parce qu'eux croient au message de la guérison divine et de la puissance de Dieu. Les autres dédaignent cela. Seulement, les individus qui se trouvent dans l'Église, qui ont été prédestinés à la vie éternelle, eux, ils viendront. Un point, c'est tout. Mais ceux qui ne l'ont pas été ne peuvent pas venir. Et Dieu l'a dit. Il a dit qu'ils avaient été prédestinés à la condamnation. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais comme il est Dieu, il a vu qu'ils allaient condamner cela. Alors, voilà, voilà, il l'a vu d'avance. Et la prescience de Dieu, c'est ça, de voir ces choses. De même, il a prédit ce qu'il en serait de l'Église, et ce, jusqu'à cette époque même. Dieu le savait dès le commencement. Avant la fondation du monde, il savait que l'Église serait exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Il savait, avant la fondation du monde, que je me tiendrais derrière cette chair ce soir. Il est Dieu. Il connaît la fin dès le commencement. Bon, donc, les pentecôtistes ont enseigné. Maintenant, je vais probablement recevoir une foule de commentaires là-dessus. Mais s'il faut que j'en vienne à la parole, je me dois d'être honnête. Une réunion où on attend, ça ne tient pas debout, ça. Vous avez été dans l'erreur. Attendre, ça ne veut pas dire prier. Attendre, ça veut dire patienter. Après l'ascension, après que Jésus-Christ, la crucifixion, la purification du sanctuaire, et après le jour de l'expiation, la résurrection, le jour de l'expiation où il a été mis à mort, après celui-ci, il y a 40 jours jusqu'à l'ascension, et ensuite la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie 50. Ce qui signifie qu'il y a eu 50 jours après l'offrande d'expiation. Et alors, après que l'expiation a été offerte, tout devait arriver à la perfection, à la lettre, géographiquement, tout exactement comme Dieu l'avait dit. Et la Pentecôte, c'était un temps de jubilé, où ils apportaient les prémices de la moisson et célébraient un jubilé. Or, les prémices de l'Église remplie du Saint-Esprit, de l'Église qui devait être là tout au long de ces 2000 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne. Les prémices sont arrivées à la Pentecôte. Ça, c'était 10 jours avant le moment de la Pentecôte. Il s'était passé 40 jours après la purification, après la mise à mort du sacrifice, jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ. Il a dit, « Montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Acte 1, acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient d'un même accord, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et alors, le monde religieux, à l'extérieur, les grandes églises orthodoxes sont venues et ont vu ces gens qui titubaient et se comportaient comme des gens ivres. Elles sont venues, elles ont ri d'eux, elles se sont moquées d'eux. Elles disaient, « Regardez donc cette bande de Galiléens, ils sont tous ivres. » Vous voyez comme ça a été mal compris? Eh, mon ami catholique, sachez que la Sainte Vierge Marie était avec eux. Et si Dieu ne lui a pas permis d'entrer au ciel sans qu'elle ait reçu le Saint-Esprit et agi comme ça, pensez-vous que vous y arriverez sans cela, ma sœur? Non. Alors, descendons de nos grands chevaux. Descendons. Ne prêtez aucune attention à ce que dit le monde. Regardez ce que Dieu dit. Ceci est la parole de Dieu. Nous devons bâtir suivant ce plan-ci, puisqu'il a dit à Pierre, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tout le reste arrivera. Cela montrait que les portes du séjour des morts allaient s'élever contre elle, mais elles ne prévaudront pas. Et les gens pensent pouvoir l'arrêter. Arrêter le soleil serait plus facile. C'est vrai, on ne peut pas l'arrêter. Dieu a décrété qu'elle continuerait à avancer. Tenez, au début, quand je me suis converti, même ma pauvre mère, là-bas au fond, a cru que j'étais devenu fou. Ma belle-mère disait, il faut l'envoyer à l'asile de fous. Les prédicateurs de la ville disaient, lui, son feu ne va pas tarder à s'éteindre. Je suis en feu depuis très longtemps. C'est un feu spirituel et qui brûle de mieux en mieux. Pourquoi? Il ne peut pas s'éteindre. C'est Dieu. Au lieu de s'éteindre, il s'est maintenant répandu dans le monde entier. C'est ce qu'il avait dit. Même chose. Au moment où je baptisais juste ici, sur la rivière Oyo, beaucoup d'entre vous étaient là, il y a 23 ans, sur la rivière Oyo. Cette lumière, cet ange, est descendu à l'endroit même où nous étions. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message amènera la seconde venue de Jésus-Christ. Et il l'a fait. Il n'est pas encore venu. Mais regardez ce que le message a fait. Il s'est répandu dans le monde entier. Voyez, et maintenant aujourd'hui, pensez donc, avec cet effort qui était déployé, il y a eu en fait des millions de personnes. Même le journal catholique, le Visiteur du Dimanche, en a parlé, a rapporté combien de millions de personnes sont entrées par suite de cet effort. D'autres entendent, ils disent, c'est la vérité, je suis prêt à me défaire maintenant même de tout ça, de ces choses du monde, et à aller prêcher le vrai évangile. Et c'est pour cette raison que les gens nous appellent du plein évangile. Ils se moquent du plein évangile. Mais frère, je ne veux pas avoir la moitié de quoi que ce soit. Il me faut le tout, moi. Si une partie de cela est bonne, le reste est bon. Le plein évangile. Maintenant, remarquez, le Saint-Esprit est venu à cette époque-là. Les gens de la Pentecôte ont attendu. Et là, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit la maison où ils étaient assis. Pas une seule fois, ils n'ont eu à attendre par la suite. Comme Pierre prononçait ses mots aux gens des nations, le Saint-Esprit est descendu sur eux avant même qu'ils aient été baptisés. Pas vrai? Comme Actes 10, 49. Mais comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, puisque ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement? Et il resta auprès d'eux et ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est exact, pas question de patienter, pas question d'attendre. La façon apostolique, Dieu n'a pas établi de règles fixes. Quand le cœur est affamé, Dieu vous donnera la chose dont vous avez faim. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, il peut descendre sur vous à l'instant même. Pierre, quand il est allé prêcher là-bas, Pierre avait les clés du royaume. Il y a une question qui va m'amener à parler de ça dans quelques minutes. Il avait les clés du royaume. Il l'a ouvert à la maison de Corneille. Il a ouvert là-bas, aux Samaritains. Il a ouvert ici. Mais souvenez-vous que Philippe était allé là-bas. Il leur avait prêché et les avait baptisés au nom de Jésus-Christ. Après quoi, Pierre est venu et leur a imposé les mains. Et là, il a accompli quelque chose, puisque ce magicien là-bas, il y avait Simon, le magicien parmi eux. Il a dit, « Je vous donnerai de l'argent pour que vous me donniez ce don-là, afin que toute personne à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Pas vrai? Il s'était passé quelque chose. Il ne s'agissait pas de certains de ces archevêques qui ont le col tourné vers l'arrière, qui seraient venus là leur imposer les mains en disant, « Je vous donne la bénédiction apostolique. » Il s'était passé quelque chose quand Pierre leur avait imposé les mains. Et quand ils le font, c'est encore pareil. J'ai vu des gens tomber comme des mouches, comme ça, au moment où le Saint-Esprit les saisit par l'imposition des mains. Oui, c'est là la doctrine apostolique de l'imposition des mains. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne partagez pas tout à fait ce point de vue, vous n'avez qu'à m'écrire une note demain soir. Très bien. Si les deux tiers des gens de ce monde ont entendu, n'ont pas encore entendu l'Évangile, la parole de l'Évangile, combien est-ce? Pardon, c'est écrit à l'encre, et comme je transpire ici, l'encre a bavé. Voyons un peu. Si les deux tiers des gens de ce monde n'ont pas encore entendu l'Évangile, comment notre Seigneur pourrait-il venir maintenant? Puisqu'ils n'ont pas entendu l'Évangile, les deux tiers d'entre eux. Eh bien, c'est tout à fait juste. Je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas longtemps, quand le docteur Reedhead, qui est président des missions du Soudan, les plus grandes missions du plein, les plus grandes missions apostoliques, non, pardon, les plus grandes missions fondamentalistes du monde, les missions du Soudan. Le docteur Reedhead, qui a tellement de diplômes qu'il ne savait même pas combien de diplômes on lui avait remis. Il est venu chez moi, là-bas, il y a un peu plus d'un an et 6 mois. Et il était là, chez moi, lui et Iman Appelman, ce ministre baptiste qui a maintenant reçu le Saint-Esprit et qui prêche au Mexique. Alors il est venu chez moi, il a dit, « Frère Branham, est-ce que vous avez des relations avec les pentecôtistes ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Et il a dit, « Je suis le docteur Reedhead. » J'ai dit, « Je suis heureux de faire votre connaissance. Voulez-vous entrer ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Il s'est assis. Il a dit, « Je veux vous demander quelque chose. » Il a dit, « On me dit que vous avez été ordonné dans l'église baptiste. » J'ai dit, « C'est exact. » J'ai dit, « J'en suis sorti. » J'ai dit, « Parce que je ne pouvais pas tolérer ça. » Je crois qu'il faut prêcher ce que dit la Bible et non ce que dit l'église baptiste. Et je n'ai rien contre l'église baptiste. Elle est aussi bonne que n'importe quelle autre église. » J'ai dit, « J'en suis sorti pour pouvoir être libre. » Il a dit, « Eh bien, évidemment, vous savez, nous sommes baptistes. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Je veux vous demander quelque chose. Que dire de ce baptême du Saint-Esprit ?» Il a dit, « Je suis allé là-bas et je les ai vus renverser des chaises, marteler le sol, crier à tue-tête et s'emballer. » J'ai dit, « Moi aussi, j'ai vu tout ça. » Mais j'ai dit, « Frère, derrière tout ça, il y a un vrai, un authentique élément. » Le baptême du Saint-Esprit. Et il a dit, « Frère Branham, est-ce que je pourrais le recevoir ?» Il a dit, « J'ai tellement de titres honorifiques. » Il a dit, « Je suis docteur, je suis ceci, j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai toutes sortes de diplômes et des distinctions honorifiques qui m'ont été décernées par différents pays un peu partout. Différentes choses comme ça. » Il a dit, « Mais où est Jésus-Christ ?» J'ai dit, « Eh bien, frère, il est ici même, dans cette pièce. » Il a dit, « J'étais là, à parler avec un mahométan convaincu qui avait fait ses études en Amérique. Et je lui ai dit, « Reniez votre vieux prophète mort et recevez le Seigneur Jésus ressuscité. » Il m'a dit, « Mon bon monsieur, qu'est-ce que votre Seigneur Jésus ressuscité peut faire de plus pour moi que ce que mon Mahomet peut faire ?» Il a dit, « Ils ont tous les deux écrit des Bibles. Nous y croyons. » Il a dit, « Ils sont tous les deux morts. » Et il a dit, « Et ils nous ont tous les deux promis la vie après la mort. » Et nous y croyons. Il a dit, « Oh, mais vous voyez, il a dit, nous, les chrétiens, nous avons la joie. » Il a dit, « Nous aussi. » Il a dit, « Je peux produire autant de psychologie que vous. » Et c'est vrai. Il a dit, « Eh bien, regardez, notre Mahomet, vous prétendez que votre Seigneur Jésus est ressuscité des morts. » Et le docteur Reedhead a dit, « Mais il l'a fait. » Il a dit, « Prouvez-le. » Il a dit, « Prouvez-le. » Il a dit, « Vous avez eu 2000 ans pour le prouver. » Et il n'y a qu'environ un tiers du monde qui en a entendu parler. Il a dit, « Que notre Mahomet ressuscite d'entre les morts, et le monde entier le saura au bout de 2 jours. » Il a raison. Il a dit, « Notre Mahomet ne nous a jamais rien promis d'autre que la vie après la mort. » Il a dit, « Votre Seigneur Jésus vous a promis, et à vous les docteurs, que les choses mêmes que lui avait faites, vous les feriez aussi. » Et il a dit, « Maintenant, vous les docteurs, produisez donc cela. » Et il a dit, « Nous croirons qu'il est ressuscité des morts. » Il a dit, « Frère Branham, j'ai enfoncé mon pied dans la terre, comme ça, et j'ai changé de sujet. » Lui qui avait tous ses diplômes. Pourquoi ? Où est Dieu dans ses diplômes ? On ne connaît pas Dieu à coup de doctorat en théologie et de doctorat en droit, et ainsi de suite. On connaît Dieu par une foi simple, par le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen. Dieu en vous, qui fait de vous un fils de Dieu, qui change votre nature. Et c'est exactement la même chose. Dieu le Créateur, qui a fait toutes choses et qui a créé le monde par sa parole. Ce même esprit étant en vous, vous croyez tout ce que Dieu dit. Et rien n'est impossible. Vous y croyez. Vous ne reculerez pas devant un petit credo. Vous ne direz pas, « Je ne crois pas pouvoir accepter cela. Je ne peux pas croire que Dieu fera ceci. Je ne peux pas croire. » Vous limitez Dieu par votre incrédulité. C'est ça. Alors, le docteur Reedhead s'est tenu là. Il a dit, « Frère Branham, est-ce qu'un homme peut recevoir réellement le Saint-Esprit ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. Docteur Reed, vous le pouvez. » Il a dit, « Si Dieu connaît mon cœur, et je crois que vous, vous savez, et sous l'inspiration, maintenant même, je voudrais que vous, croyez-vous que je dis la vérité ?» J'ai dit, « Je sais que oui. » Il a dit, « Que faut-il que je fasse pour le recevoir ?» J'ai dit, « Agenouillez-vous. » Et il s'est agenouillé là, à côté de la vieille table basse. Je viens de passer la chercher, non loin d'ici. L'homme qui l'a réparée, près d'ici tout à l'heure, est assis là, au fond. Elle se trouvait là. Il a cassé le dessus en verre, en s'agenouillant. Il a dit, « Que Dieu ait pitié de mon âme pécheresse !» Je lui ai imposé les mains, et le baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui. Juste là, c'est vrai. Et maintenant, il a tout simplement embrasé l'église baptiste partout. Il leur a transmis cela à tous. Voilà, c'est ça. Oui, monsieur. L'Évangile ne peut pas, Jésus ne peut pas venir tant que... Écoutez, nous avons distribué des tracts partout, dans le monde entier. Il n'y a aucun recoin, nulle part, où on peut aller sans qu'on y ait distribué des tracts, sans que quelqu'un soit passé par là avec une théologie quelconque. Allez outre-mer aujourd'hui et dites que vous êtes missionnaire. Vous verrez, les gens vont vous rire au nez. Allez en Inde et dites, je suis missionnaire. Eh bien, qu'est-ce que vous allez nous enseigner ? Ils en savent plus sur la Bible que certains des enfants de là-bas en savent plus là-dessus que certains des docteurs d'ici, en Amérique. Après tout, c'est un livre de l'Orient. Et souvenez-vous, ils ont eu l'Évangile des centaines et des centaines et des centaines d'années avant que l'Amérique ait vu le jour. La grande église dans laquelle saint Thomas a prêché est encore debout aujourd'hui en Inde. Ils n'ont besoin d'aucun de vos enseignements. Ils savent tout à ce sujet. Ils ont dit, « Qu'est-ce que vous allez nous enseigner ?» Eh bien, nous sommes des missionnaires de l'Amérique. Qu'est-ce que vous allez nous enseigner ? À boire du whisky ? C'est ce que vous faites là-bas, dans vos églises. À fumer la cigarette ? Vous allez nous enseigner à divorcer d'avec nos femmes ? Et ainsi de suite. Ils ont dit, « Si c'est ça que vous allez faire, nous ne voulons pas de ça. » Ils ont ajouté, « Vous allez venir ici avec une nouvelle théologie ou quelque chose ? Vous allez essayer de nous enseigner quelque chose dans la parole ? Nous en savons plus que vous là-dessus. » Et c'est vrai. Il a dit, « Par contre, si vous venez faire une démonstration de ce que dit la parole, cela, nous le recevrons. » Amen. C'est ça. Voilà la chose dont ils ont faim. Notez bien ce que je vous dis. Inscrivez-le dans les pages de votre Bible, car c'est ainsi dit le Seigneur. Souvenez-vous, quand nous mettrons les pieds en Inde, vous entendrez parler de dizaines de milliers de personnes qui recevront le salut. Le Saint-Esprit l'a dit. Je l'ai inscrit ici dans ma Bible. Cela a été inscrit dans des dizaines de milliers de Bibles ici, comme la résurrection du petit garçon. Par suite d'une vision où il a déclaré, il y a 300 000 personnes présentes. Vous verrez si ce n'est pas exact. Voilà de quelle manière l'Évangile sera prêché. Du jour au lendemain, il se répandra avec force, comme ça, de lieu en lieu. En Afrique, là où 30 000 personnes, après un seul appel à l'autel, ont reçu Dieu, j'ai dit, « Levez les mains et recevez le Saint-Esprit. » J'ai dit, « N'attendez pas qu'un missionnaire américain vienne vous enseigner à apprendre les langues dans l'église et des mères qui font la lessive sur une planche à laver afin de pouvoir envoyer un missionnaire là-bas. Et lui, il va se balader dans une belle grande voiture et se nourrir de la graisse du pays. Bien sûr, il distribuera quelques tracts, puis il reviendra. Ils ne veulent pas de ça. Ils l'ont prouvé. Un soir, il y a quelques jours, juste ici, à l'hôpital juif, j'ai dit, lors d'une rencontre avec les ministres et les médecins, sur le sujet de la guérison divine, j'ai dit, « Vous m'avez traité d'exalté et vous avez dit que j'avais eu un cauchemar quand je vous ai parlé de l'ange du Seigneur. » Et j'ai dit, « Et notre propre église a envoyé des milliers de missionnaires et a dépensé des millions de dollars pour les envoyer en Afrique. Et quand je suis arrivé là-bas, les gens portaient de petites idoles d'argile. Ils cherchaient à obtenir de l'aide de ces idoles d'argile, tout en se disant chrétiens. J'ai ajouté, « Et ce que vous avez appelé du fanatisme a gagné plus d'âmes à Christ en 5 minutes que nos millions de dollars et nos milliers de missionnaires n'en ont gagné au cours des 150 dernières années. » Ils se sont tus. Avec ça, c'était classé. Voilà ce qu'il faut. Je vous ai dit, j'ai dit à ces hommes, j'ai dit, « Ne cherchez pas à faire des études. Prenez simplement cet évangile et partez là-bas, dans les pays où se trouvent les indigènes. » Là où l'homme blanc ne peut même pas aller à cause des maladies. Et j'ai des extraits du journal de Durban qui déclare que même un vieillard qui ne savait pas même distinguer sa droite de sa gauche a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il baptise en moyenne 1000 personnes par semaine. Voilà comment l'évangile avance en très peu de temps. Il ne lui faudra qu'environ 6 mois pour parcourir le monde entier. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'est la science chrétienne ? Chrétienne. Très bien. Voici. Je ne vais pas parler de votre religion, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la personne qui a posé la question. La science chrétienne, c'est de la psychologie. Et la guérison divine, c'est la puissance de Dieu. La science chrétienne professe la victoire de la pensée sur la matière. La science chrétienne nie le sang de Jésus-Christ. La science chrétienne, oh, je me suis procuré les livres de Madame Eddy là-bas, et je les ai tous lus, voyez, c'est vrai. La science chrétienne nie la divinité de Jésus-Christ, elle le classe comme prophète. Jésus-Christ n'était pas un homme, il était Dieu, il était divin, et eux, ils pensent qu'il s'agit de la victoire de la pensée sur la matière. Si j'ai une crampe au bras, ou une crampe d'estomac, ou une douleur à la tête, j'ai assez de bon sens pour savoir que ça fait mal, et pas parce que je pense que ça fait mal. Mais je sais que la puissance de Dieu peut m'enlever ça, et non le fait que j'y pense, voyez. Donc, au sujet de la science chrétienne, je dirais ceci, comme pour l'autre mouvement sur lequel on m'a posé la question. C'est l'un des ismes des temps modernes, et une erreur profonde, funeste, c'est exact. Je ne veux pas vous blesser, mon ami, quelle que soit la personne qui a écrit cette question, mais je me dois d'être sincère. En effet, vous qui l'avez écrite, et moi, nous nous tiendrons un jour ensemble dans la présence de Jésus-Christ pour rendre des comptes, et je devrais rendre compte de ce que je dis. Or, je ne répondrai pas sans savoir. Très bien. Maintenant, quand nous habitons loin d'ici pour être présents, nous habitons trop loin d'ici pour être présents au tabernacle, où nous conseillez-vous d'être présents, de nous assembler, étant donné que les églises prennent pour modèle l'église mère, c'est-à-dire le catholicisme? Mon cher frère ou ma chère sœur, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je ne vous dirai pas à quelle église aller, mais à votre place, voici ce que je ferai, mon frère, ma sœur. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, eh bien, recevez le baptême du Saint-Esprit. Et après, allez dans une assemblée où il y a d'autres personnes qui ont le baptême du Saint-Esprit. Il faut vous rassembler avec cette sorte de gens-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un homme qui était né, ça faisait 10 ans qu'il... Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas eu la vue. Il faisait partie d'une grande église. Il habitait Kennett, dans le Missouri. Il était cordonnier. Il avait perdu la vue. Cet homme est venu sur l'estrade et le Saint-Esprit lui a dit qui il était et ce qui n'allait pas chez lui. Il lui a dit depuis combien de temps il était aveugle. Et il lui a parlé d'une vilaine petite chose qu'il avait faite. Il a dit, « Si Dieu me prête vie pour que je puisse aller là-bas, alors je redresserai la situation. » Et quand il a dit ça, ses yeux se sont ouverts. Il a lu plusieurs chapitres de suite dans cette même Bible que j'ai ici. Il est retourné à son église et il donnait la louange. Et le pasteur lui a dit, « Ce serait arrivé quand même. Voyons, tu t'es simplement emballé. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai dans ce genre de choses. C'est du diable. » Je défie n'importe qui de m'indiquer un seul passage de l'Écriture où il est dit que le diable peut guérir. Si vous m'indiquez où il est dit que le diable peut guérir, moi je prouverai que le diable est votre père. C'est vrai, si vous faites ça. Ce n'est pas contenu dans les paroles de Dieu. Cela ne peut pas être prouvé. Et vous, peut-être, si vous voulez essayer, je vous invite à le faire. Mais ça, des évêques et des gens de toutes sortes y ont été confrontés, mon frère. Alors, ne dites pas ça. Regardez, et cet homme-là s'est mis dans son cœur à croire cela. 3 mois plus tard, il s'est retrouvé à mes réunions, aussi aveugle qu'au départ. Voilà. Alors, restez en dehors de ces ismes. Rassemblez-vous avec des gens qui croient. Côtoyez-les. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug avec des incroyants. Séparez-vous, dit Dieu. Sortez. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à leurs choses impures et je vous accueillerai. Je suis l'Éternel qui se tient au milieu de l'Église. C'est vrai, sortez, ne côtoyez pas de tels gens. Mais que, allez au milieu d'une Église, d'une bonne Église, que ce soit des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des combélites, peu importe qui ils sont, ça ne change là où se trouvent de vrais, de véritables croyants. Ce que dit le credo de l'Église, ça leur est égal. Ils vont là-bas pour retrouver leurs frères et sœurs et pour adorer Dieu ensemble. Très bien. Hier soir, vous avez parlé de la grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute nation, dont il est et fait mention au chapitre 7 de l'Apocalypse. Vous ai-je bien compris? Avez-vous dit qu'ils sont l'épouse de Christ? Oui, vous m'avez compris. Ils sont l'épouse. Maintenant, si vous remarquez, précisément là, dans Apocalypse 7, il a vu les 144 000. Or, je ne vous accuse pas de ceci, mon frère, mais les 100, en général, ce sont les témoins de Jéhovah qui croient que les 144 000 sont l'épouse. Et ça, c'est une erreur. Jean les a tous reconnus et il les a nommés. Ils étaient tous juifs. Il a dit 12 000 de Gad, 12 000 de Zabulon, 12 000 de Benjamin, 12 000 de Judas. Pas vrai? Il y a 12 tribus d'Israël et 12 fois 12, ça fait 144 000. Pas vrai? Il a dit tous des fils d'Israël. Jean les a reconnus. Après cela, il a regardé de ce côté. Il a dit, mais ici se trouvait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ils se tenaient là, vêtus de robes blanches, et dans leurs mains des palmes, qu'ils agitaient de côté et d'autre. Ils poussaient des cris, et on tenait des hosanna, et au roi. Il a dit, qui sont ceux-ci? Il a dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont devant Dieu, et ils serviront l'agneau dans son temple. Ils seront avec lui, jour et nuit, ils ne le quitteront pas. Voilà l'épouse, vous voyez, sa femme, l'épouse des nations. Souvenez-vous, l'épouse, ce sont des gens des nations. Il a dit qu'il viendrait faire sortir du milieu des nations un peuple à cause de son nom. Or, il y a beaucoup de jeunes filles dans le monde, mais j'en ai pris une seule pour femme, c'est Meda Breuil, qui est maintenant Madame William Branham. Et là, elle n'est plus une Breuil, elle est maintenant une Branham. Voyez? Et c'est comme ça, vous vous revêtez de Jésus-Christ et vous devenez une épouse des membres de l'épouse. Quels sont les mots latins qui se trouvent au-dessus de la cité du Vatican? Nous aimerions savoir comment ils s'additionnent pour faire 666 et ce qu'ils signifient. Eh bien, ils ne se trouvent pas au-dessus. Les mots latins, ne se trouvent pas au-dessus de la cité du Vatican. Ils se trouvent au-dessus du trône du pape, à l'endroit où il s'assied sur son trône. Au-dessus, il est écrit « Vicarius Filii Dei ». Si vous le désirez, demain matin, j'apporterai ça par écrit et tout. Je mettrai ça sur un bout de papier. Si vous voulez avoir ça, eh bien, je vous l'apporterai demain matin. Là, vous pourrez déchiffrer cela en lettres romaines. « Vicarius Filii Dei ». Ce terme signifie « à la place du Fils de Dieu », qu'il est le successeur du Fils de Dieu. L'Église catholique croit que Pierre a été le premier pape, qu'il a été le successeur de Jésus-Christ, ce qui est une erreur. Très bien. Et puis, il déclare que chaque pape qui est venu après lui est un successeur, et que le pape actuel, qui est en place maintenant, est un successeur de Jésus-Christ. Et là-bas, il est écrit au-dessus, là, « successeur de Jésus-Christ, Vicarius Filii Dei ». C'est écrit là-dessus. Vous n'avez qu'à écrire cela en lettres romaines. X pour 10, V pour 5, et ainsi de suite, comme ça, en écrivant Vicarius Filii Dei. Ensuite, tirez une ligne, et ça vous fera 666. Écrivez-le, et vous verrez. Or, j'ai les réalités de notre foi, le livre de l'Église catholique, qui s'intitule comme ça. C'est que les gens de ma famille étaient catholiques, d'origine irlandaise. Donc, je parle en connaissance de cause, voyez. Et c'est l'exacte vérité, c'est vrai. Que là, et la Bible dit qu'il sera assis dans une église, ou un endroit, ou une église qui est assise sur cette colline, à Rome, et que sa puissance s'étendra sur le monde entier, et il est appelé l'Antichrist. Et de cette église-là sont sorties de petites églises, nées par la suite. Et il est dit qu'elle était une prostituée et qu'elles étaient des impudiques, elles qui avaient suivi ses traces. C'est vrai, voilà. En effet, elles se sont organisées. Même chose, elles avaient leur credo et leur doctrine. Elles ont un tout petit peu moins de puissance. Elles n'en ont pas autant qu'elles, mais elles ont quand même de la puissance. Et bête, ça signifie puissance. Voilà. Donc, les catholiques possèdent une plus grande puissance. Les méthodistes et les presbytériens et les luthériens et les baptistes et les autres, et ainsi de suite. Celles-là, c'était de petites puissances organisées. Mon église, mon église, mon église, mon église. Mais le vrai croyant, lui, n'en parle pas du tout. C'est mon Christ, mon Christ, mon Christ. Voilà la différence. Comment savoir? Le Saint-Esprit en rend témoignage par des signes et des prodiges. Voici une petite question. Elle fait sursauter un peu. Ça me coûte de la lire. Mais quelqu'un l'a mise ici. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Le pourquoi, c'est en raison du fait que certains diacres nient le don des langues et le don de guérison. Nous savons tous que c'est vrai. Dites-moi de qui il s'agit, pendant que je suis ici pour cette campagne, et ce sera promptement éliminé. S'il vous plaît, expliquez si un chrétien devrait observer le lavement des pieds, de même que le baptême au nom de Jésus-Christ, ce nom, au lieu du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Très bien, j'en ai eu environ trois comme celle-là, où on a demandé la même chose. Au sujet du lavement des pieds, eh bien, autant commencer par cela. Bon, mais il se peut que vous ne soyez pas d'accord. C'est en ordre. Je vais juste lire un peu, pour d'un instant. Ou, si vous voulez le lire, prenez dans Jean, au chapitre 13, pour d'un instant. Je voudrais vous demander quelque chose ici. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Ensuite, je vous ferai prendre plus loin dans le Testament. Je vous montrerai qu'on continue toujours à observer cela. Commencez au verset 2. Or, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Il était sorti de l'esprit pour devenir chair et il allait reprendre la forme d'esprit. Voyez? Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Oh, pouvez-vous imaginer ça? Très bien. Simon lui dit, « Non seulement les pieds, mais les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a que besoin de se laver les pieds. Vous êtes entièrement purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. Vous êtes heureux pourvu que vous sachiez ces choses et les pratiquiez. » Dans 2 Timothée, Paul a dit, lorsqu'il a écrit à l'Église, qu'aucune veuve ne soit admise dans l'Église avant d'avoir lavé les pieds des saints. C'est vrai, on a observé le lavement des pieds tout au long des jours de la Bible. Et avec l'aide de Dieu, si je garde mon bon sens et que Dieu me vient en aide, j'observerai cela jusqu'à ma mort. C'est vrai, c'est carrément un ordre donné par Jésus-Christ. Maintenant, celle-ci va être une question épineuse. Pourquoi une personne se ferait-elle baptiser au nom de Jésus-Christ au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit? J'en ai deux ou trois. En voici une, juste ici. Frère Bill, quel est le faux baptême dont vous parliez hier soir? S'il s'agit du baptême d'eau ou bien de celui de l'Esprit? S'il s'agit du baptême d'eau et que vous avez dit au nom de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que dans Matthieu 28, 19, il est dit Père, Fils et Saint-Esprit? S'il vous plaît, expliquez. Bon, ces questions sont un peu épineuses, mais je crois que j'en ai une autre quelque part sur la même chose. Oh, c'est à peu près à trois endroits. Je vais essayer d'y répondre. Voyons un peu. Est-ce que vous voulez bien me supporter encore quelques minutes? Très bien. Allons-y alors. Répondons à ces questions. Peut-être pourrons-nous aller de l'avant et en prendre quelques-unes. Et les autres, peut-être y répondre demain, si on n'a rien d'autre pour l'école du dimanche, ou bien à un autre moment. Mais peut-être que ces gens posent cette question, et demain, il y aura les baptêmes. Or, de quelle façon vous avez été baptisés, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais je veux vous faire part de la doctrine apostolique de la Bible. Voyez? Bon, hier soir, nous avons vu que, quand l'Église catholique s'est organisée, elle a instauré une fausse communion, disant que lorsqu'on reçoit la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Communion, là, on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. C'est une hostie. L'Église protestante donne des poignées de main, mais les noms des personnes sur le registre, C'est ça qu'elle, elle appelle le recevoir. Bon, mais la vraie façon de le recevoir, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Et là, l'Église catholique a introduit le catéchisme. Luther a eu ça. L'Église méthodiste a ça. Les épiscopaliens ont ça. Bon nombre des autres ont ça. Le catéchisme. Bien des traditions de l'Église catholique persistent encore dans l'Église protestante. Ce qui fait qu'elle y est très similaire, selon ce que dit la Bible. Mais jamais, une seule personne, jamais, dans toutes les pages de la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jamais, une seule personne n'a été baptisée au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, avant l'existence de l'Église catholique primitive. Ça ne se trouve pas dans la Bible, nulle part. Si quelqu'un peut y trouver un passage à cet effet et me dire, me montrer où une personne aurait été baptisée au moyen du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vous en prie, montrez-moi ça, car je l'ai parcouru d'un bout à l'autre maintes et maintes fois, depuis maintenant 20 et quelques années. C'est une erreur, c'est un credo catholique et non un ordre donné dans la Bible. Maintenant, nous allons voir pourquoi. Nous abordons votre question, mon cher frère. Jean, je veux dire Matthieu 28, 19. Très bien, retournons-y. Prenez-le dans votre Bible avec moi pour que vous puissiez aussi le lire. C'est l'endroit où il est fait mention de cela. Un seul endroit dans la Bible sur « Jésus n'a-t-il pas dit que toute parole soit établie sur la déclaration de deux ou de trois témoins ?» Je peux vous montrer dans la Bible là où il est dit « Judas Iscariote alla se pendre » et « Va et toi fais de même ». Je peux vous montrer là où Jésus a dit « Lorsque le Fils de l'homme, qui était lui-même, qui est maintenant dans le ciel, reviendra, et il se trouvait ici même sur terre. » Il a dit « Le Fils de l'homme, qui est maintenant dans le ciel, et il se trouvait ici même sur terre. » Il faut connaître Dieu pour connaître sa parole. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas étonnant que vous disiez « Elle se contredit, elle est déroutante en effet. » Dieu a dit qu'il avait écrit comme ça dans le but de la cacher à ses érudits et tout, que les gens deviennent humbles devant l'autel. Alors Dieu vous la révélera. Maintenant, voici le passage de l'Écriture, Matthieu 28, 19, le seul endroit de la Bible où il est fait mention de ces titres. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Bon, mais vous, la façon dont vous avez été baptisés, c'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça ne se trouve même pas dans l'Écriture. Mais ici, on trouve « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom ». Maintenant, regardez bien dans votre Bible. Voyez s'il est dit « dans les noms » ou bien « dans le nom ». Bon, vous dites « Or, il n'y a pas longtemps, lors d'une rencontre, un homme disait « Il y a une contradiction dans la Bible ». Il a dit « J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Pourquoi est-ce que Jésus a dit aux gens de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et qu'ensuite Pierre, voilà qu'il les a baptisés au nom de Jésus-Christ, dans Actes 2, 38. Il a dit « Si ça ne se contredit pas, alors je ne vois pas ce qu'est une contradiction. » J'ai dit « C'est simplement parce que vous n'avez pas cherché Dieu comme il se doit. » Il a dit « Frère Branham, est-ce que ça change quelque chose que je sois baptisé de cette façon-ci ou de cette façon-là ? » Certainement, et je vais le prouver par la Bible. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse, Dieu a dit à Moïse, qui s'était approché du buisson, il a dit, « Moïse, ôte tes souliers, tu es sur une terre sainte. » S'il avait dit, « Eh bien, Seigneur, je suis un homme vénérable, mes souliers, il est un peu difficile de les ôter, alors je vais simplement ôter mon chapeau. » Il n'a pas dit « chapeau », il a dit « souliers ». Et ce que la Bible dit est la vérité. Or, si... Ici, c'est 10 jours. C'était au moment de l'ascension. Et lorsque Jésus a été enlevé au ciel, il a donné à ses disciples le mandat d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 10 jours plus tard, ils sont montés à Jérusalem et ont attendu dans la chambre haute jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Et alors, quand ils ont commencé à prêcher et tout, les gens ont dit « Que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Puis, il est allé dans la maison de Corneille. Il a dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Il est allé au loin et a rencontré des personnes qui avaient déjà été baptisées. Il a dit « Vous devez vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. » Il est allé à Samarie et a dit « Qu'on les baptise au nom de Jésus-Christ. » Et pas une seule fois, on a cité ces titres-là sur quelqu'un. Jamais. Bon, alors, il y a une contradiction, direz-vous. Non, ce n'en est pas une. Demandez seulement au Saint-Esprit maintenant et regardez-le vous révéler cela. Ouvrez la porte de votre cœur. Or, ne gardez pas de préjugés. Si vous le faites, Dieu ne peut pas vous parler. Mais si vous ne gardez pas de préjugés, que vous dites, « Je cherche réellement la vérité, frère Branham. » Si Jésus a dit aux disciples d'aller faire ceci et qu'eux sont allés là faire autre chose, pourtant, Dieu y a ajouté sa bénédiction, et ça tout au long de la Bible. Or, est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Si c'est ce qu'ils ont fait, alors ils ont désobéi, et Dieu n'honorera jamais la désobéissance. S'il le faisait, il aurait honoré Ève, et il aurait arrêté tout ça au commencement. Quand Dieu dit quelque chose, il doit tenir sa parole. Il est souverain. Et donc, soit que Pierre a fait une erreur, oh, ils disent, ça, c'est ce que les apôtres ont dit. Un homme a dit, ça, c'est ce que les apôtres ont dit. Moi, je vais faire ce que Jésus a dit. Eh bien, si les apôtres ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire, alors qu'en est-il? Et si les apôtres qui ont écrit cette Bible, Paul a écrit toutes ces choses, et c'est Paul qui les a obligés à se faire rebaptiser. Et si Paul a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, quelle sorte de Bible écrite est-ce que vous essayez de lire là? Présentons bien ceci. Posons la question de façon très sensée et voyons ce que dit la parole. Or, ceci, c'est pour votre instruction, pour que vous connaissiez la parole de Dieu. Maintenant, si Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ lui a dit de baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, il a fait le contraire de ce que Jésus avait dit, pas vrai? Alors, il faut qu'il y ait quelque chose là-dessous. Maintenant, voyons ce que c'est. Demandons au Saint-Esprit de nous le montrer. Alors, premièrement, là, prenons le premier passage de l'Écriture, Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » Regardez dans votre Bible pour voir s'il est dit là, dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce là ce qui est dit? Non, monsieur. Est-il dit dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit? Il est dit dans le nom, pas vrai? Eh bien, le nom, c'était au singulier, pas vrai? Eh bien, dans quel nom voulait-il qu'il baptise? Le nom du Père, ou le nom du Fils, ou le nom du Saint-Esprit? Il a dit dans le nom. Eh bien, franchement, aucun de ceux-là n'est un nom. Combien y a-t-il de pères ici? Faites voir votre main. Votre main. Très bien. Lequel d'entre vous a pour nom Père? Père, ce n'est pas un nom. Père, c'est un titre. Combien y a-t-il de fils ici? Bien sûr, tous les hommes, tous les mâles sont des fils. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom fils? Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Pas vrai? Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom humain? Combien y a-t-il d'humains ici? Vous en êtes tous. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom humain? Ça ne s'est jamais vu, ça. C'est ce que vous êtes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est ce qu'il est. Je suis un humain. Donc, ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom. Ce sont simplement trois titres qui se rapportent à un seul nom. Maintenant, écoutez attentivement. Qu'est-ce? Regardez un peu. Je vais présenter ceci comme pour les tout-petits. Si vous disiez, bon, par exemple, si vous lisiez un livre d'histoire et que ça disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », alors vous vous demandez « Qui sont Jean et Marie ?» Eh bien, le seul moyen pour vous de savoir qui sont Jean et Marie, c'est de reprendre l'histoire au début et de la lire d'un bout à l'autre. Pas vrai? Eh bien, si Jésus a dit ici de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Père n'est pas un nom, que Fils n'est pas un nom, et que Saint-Esprit n'est pas un nom, qu'en est-il? Qui est ce personnage-là? Nous voulons savoir qui il est. Alors, le mieux à faire, ça, c'est au dernier chapitre de Matthieu, au dernier verset. Reportons-nous au premier chapitre de Matthieu, au premier verset, et commençons là. Voyons qui est ce Père, ce Fils et ce Saint-Esprit. Maintenant, je veux juste faire ceci pour les enfants qui sont là, pour qu'eux aussi saisissent. Avant toute chose, ceci rectifiera cette idée que vous avez de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, d'abord, il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où il a été fait mention d'une Trinité. Trouvez ça et montrez-le-moi. Ça n'existe pas. C'est une erreur d'origine catholique. Et vous, les protestants, vous vous y pliez. Remarquez. Alors, ceci, c'est quoi? J'ai dit que ceci, c'est qui? Le Père. Ceci, c'est qui? Le Fils. Et ceci, c'est qui? Or, le Père, c'est le Père de qui? Du Fils, pas vrai? Alors ceci, c'est le Père de Jésus. Ne les confondez pas, là. Ceci, ici, est le Père. Ceci est le Fils, et ceci est le Saint-Esprit, pas vrai? Or, les gens présentent cela comme trois personnes distinctes, trois dieux distincts, trois personnalités distinctes. Ce n'est pas étonnant que les Juifs n'y comprennent rien. Très bien. Matthieu chapitre 1 débute par les généalogies de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Comme ça, jusqu'au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Nous y voici, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Suivez-moi dans votre Bible. De quelle manière arriva la naissance de cet homme, Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. Est-ce que j'ai lu comme il faut? Qu'est-ce qui est dit? Se trouva enceinte par la vertu de qui? Il me semblait que quelqu'un avait dit que cet homme-ci était son père. La Bible dit que cet homme-ci était son père. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, vous vous retrouvez avec quel genre d'enfant? Et Jésus a clairement dit que Dieu était son père. Pas vrai? Dieu est son père. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à y voir? Si la Bible dit que le Saint-Esprit était son père, alors que Jésus a dit que Dieu était son père, et que vous aussi, vous avez dit que Dieu était son père. Et voici ce que la Bible dit ici. S'il y a deux personnes distinctes, Dieu n'a rien eu à y voir. C'est le Saint-Esprit qui est son père. Maintenant, lisons un peu plus loin. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, mais se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, non pas de Dieu le Père, mais de Dieu le Saint-Esprit. » Vous voyez à quoi mènerait votre conception trithéiste? À classer Jésus comme un enfant illégitime. Certainement, c'est une erreur. Il n'y a aucune référence biblique pour ça. Alors, il vous faut admettre que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Sinon, Jésus aurait eu deux pères différents, pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. La Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Et la Bible dit que Dieu était son Père. Alors, lequel est son Père? Le Saint-Esprit et Dieu, c'est le même esprit, c'est la même chose. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, par le Seigneur. Une vierge concevra, elle enfantera un fils, et on celui-ci, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplit, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qui? Est-ce que Pierre a mal agi? Il a fait ce que Jésus lui avait dit. Ce sont là trois titres. Je suis un ministre, je suis un père et je suis un révérend, qu'ils disent. C'est un titre. Mais rien de cela n'est mon nom. Mon nom est William Branham. Il était le Père, il était Fils, il était Saint-Esprit. Vous essayez d'en faire trois dieux, mon ami. C'est faux, c'est une erreur. Il y a trois dispensations et c'est ce qui a embrouillé les trithéistes. Dieu le Père était l'Esprit qui se tenait au-dessus des enfants d'Israël, dans la colonne de feu. Pas vrai? Dieu était là. Ensuite, Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. Pas vrai? Dans son Fils. Maintenant, il s'est abaissé jusqu'à entrer dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. Dieu est comme une règle graduée de 90 cm ou une règle graduée de 90 cm. Oui. Les 30 cm du début, c'était Dieu le Père. Les 30 cm suivants, Dieu le Fils, le même Dieu. Les derniers 30 cm, c'était Dieu le Saint-Esprit, le même Dieu. Jésus a dit, vous dites, eh bien, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est vrai, mais Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je est un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Mais alors, Où est le Saint-Esprit? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai et je serai avec vous. C'est ça. Vous voyez, vous comprenez mal, mon ami. C'est un seul Dieu, dont trois dispensations. La dispensation de la paternité, de la filiation et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Et quand il a dit, « Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'était Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a baptisé au nom de Jésus. Alors regardez, maintenant parlons des baptêmes. La toute première fois qu'il a été question de baptême dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Pas vrai? Je vais placer ceci ici en haut. Vous voyez, il faut d'abord tirer au clair la question de la divinité avant de pouvoir tirer au clair la question du baptême. Voilà Jean-Baptiste, le premier baptême. La deuxième fois qu'il a été question de baptême, c'était dans Actes 2:38, où ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, au moment de la nouvelle Église. Le deuxième endroit, c'était chez Corneille, ou, chez les Samaritains, Actes 7:48 et 49. Et Actes 10:49, c'est là qu'il les a baptisés, chez Corneille. Et la fois suivante, où il était question de baptême et de citer des noms ou des titres, c'était dans Actes 19:5. Or, quand ils ont été baptisés le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés, Actes 2:38, au nom de Jésus-Christ. Pas vrai? Notez-le et vérifiez ça. Ensuite, Philippe est allé, deux jours plus tard, il a commencé à prêcher aux Samaritains. Il leur a prêché, il a guéri les malades, il a eu une glorieuse réunion là-bas. Et il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre est allé leur imposer les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre est monté sur le toit quelques jours plus tard. Il avait faim, il a eu une vision. Dieu l'a envoyé à la maison de Corneille. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils se sont mis à parler en langue et à se comporter comme eux-mêmes l'avaient fait la première fois. Pierre a dit, ils n'ont même pas encore été baptisés. Alors, il leur a ordonné à tous d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Paul, je veux dire, les disciples de Jean n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils avaient été baptisés du baptême de la repentance. Prenons 1 Corinthiens. Je veux dire, prenons acte au chapitre 19, un instant, et prenons une minute pour lire ceci, pour que vous voyez, mes amis, que que l'Écriture ne se contredit pas. Regardez un peu. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul traversa les contrées supérieures d'Éphèse. Il trouva certains disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Ils dirent, « Mais nous ne savons pas si l'Esprit Saint est. » Il dit, « De quel baptême, donc, avez-vous été baptisés ?»« Oh, dirent-ils, nous avons été baptisés. » Il dit, « Comment ?» Ils dirent, « Du baptême de Jean. » De Jean. Il dit, « Jean a seulement baptisé du baptême de la repentance, disant que vous devez croire en celui qui est venu, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Et ayant ouï ces choses, il fut rebaptisé pour le nom de Jésus-Christ. » Paul leur imposa les mains, et l'Esprit-Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Le grand saint Paul. Écoutez, supposons que vous ayez été baptisé par Jean-Baptiste, l'homme même qui a baptisé Jésus-Christ. Un homme saint dont Jésus a dit, il n'y a jamais eu un homme né d'une femme qui était aussi grand que Jean-Baptiste. Il est le prophète de première importance parmi tous les prophètes. Il a mené Jésus dans l'eau et l'a baptisé là même, dans le Jourdain. Frère, si j'avais été baptisé par lui, j'en serais fort heureux, n'est-ce pas? Mais voilà que Paul dit, ça, ça ne marche plus maintenant. Il a dit, il faut vous faire rebaptiser. Oh, mais Paul, nous avons été immergés. Nous avons été immergés par Jean là-bas, dans le Jourdain. Il a dit, ça, ça ne marche plus maintenant. Il faut vous faire baptiser de nouveau. Comment? Il a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Celui-ci, c'est pour la rémission des péchés. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et il aura fallu se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul passage de la Bible, ni dans toutes les pages de l'histoire, pendant les 600 ans qui ont suivi la mort du dernier apôtre, où ils aient baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. Et allez demander à n'importe quel prêtre catholique, tous ceux que vous voudrez, demandez-leur qui a changé ça, et voyez ce qu'ils vous diront. Prenez le catéchisme et lisez-le. Il y est dit, bien sûr, certains des protestants seront sauvés, parce qu'ils se plient à notre baptême. C'est eux qui ont changé ça. Ils disent qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de le faire. Et vous le croyez. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent, c'est ce à quoi se plie l'Église protestante. Mais quant à l'Écriture, il n'y a pas la moindre parcelle d'Écriture à ce sujet. Il aura fallu se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez rapidement là, pour que nous puissions sans tarder. Je ne veux pas prendre trop de votre temps en répondant à ces questions. Regardez, le jour où Jésus est descendu de la montagne de la Transfiguration avec ses disciples, il a dit « Qui dit-on que je suis ?» Et que dit-on? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es le prophète. Il a dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas. » Il a dit, « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as jamais appris cela dans une église. Tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Or, l'Église catholique dit, c'était Pierre. Ils avaient un roc là-bas, qui se trouve encore sous la cité du Vatican, alors que ça s'est passé à Jérusalem ou en Palestine. Ils ont dit que c'était ça, le roc. L'Église protestante dit, c'est sur Pierre qu'ils ont bâti l'Église. Si c'est le cas, elle a rétrogradé quelques jours plus tard. Ce n'était pas ça. L'Église a été bâtie sur la révélation divine de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, la révélation spirituelle de la parole de Dieu, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est ce qui m'amène à dire que vous soyez luthérien, méthodiste et quoi encore, n'importe quoi, pentecôtiste, quoi que vous soyez, ça ne change absolument rien. Quand l'Église de Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration, elle avancera plus loin et encore plus loin et toujours plus loin. Aucune dénomination ne l'arrêtera. Rien au monde ne l'arrêtera. Sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. La vérité spirituelle révélée. Maintenant, regardez bien. Maintenant, voici ce qu'il dit ensuite. « Toi, tu es Simon, et je te donnerai. » Parce qu'il avait reçu la vérité spirituelle révélée. C'est pour cette raison qu'il a su faire la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit, et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait une révélation spirituelle. C'est ce que vous comprenez ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit nous dévoile. Il a dit, « Tu es Simon, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur cette terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur cette terre, je le délierai dans les cieux. » L'a-t-il dit? Dans Matthieu au chapitre 16, « Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et je te donnerai les clés. » De quoi? Du royaume des cieux. Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. La Bible dit, « Le royaume des cieux est au-dedans de vous. » Je veux dire, le royaume de Dieu, excusez-moi. Le royaume est au-dedans de vous. Or, il a dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Juste quelques jours plus tard, la Pentecôte. Voyez, quelques-uns de ceux qui sont ici, juste là, dans cette même chose qu'il était en train de dire. « Quelques-uns parmi vous qui êtes ici, il avait été transfiguré. » Il a dit, « Vous ne mourrez point, que vous n'ayez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » La Bible dit, le royaume est au-dedans de vous. Quand Jésus est ressuscité des morts, souvenez-vous, il avait à sa ceinture les clés de la mort et du séjour des morts, mais pas les clés du royaume. Celles-là avaient été données à l'Église. Donc Pierre avait les clés. Croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Sinon, frère, il n'était pas Dieu. Un point, c'est tout. Alors il a dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Maintenant, regardez quelle erreur ils ont commise là, d'aller pardonner les péchés, et ainsi de suite comme ça. Quelle erreur? Voyons un peu. On lui a remis les clés. Donc, il prit la résolution de se rendre directement à la pente ou directement à Jérusalem. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il a passé 40 jours sur la terre parmi les hommes, il est monté au ciel. Il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient vu venir sur eux le royaume de Dieu, que c'est alors que le Père allait le leur rendre. rétablir sous une forme spirituelle le royaume. Ils sont montés dans la ville de Jérusalem et ils ont attendu là-bas pendant 10 jours et 10 nuits. Et tout à coup, le baptême du Saint-Esprit, le royaume de Dieu, est venu sur eux avec puissance. Pas vrai? Maintenant, regardez bien. Pierre, qui était sans instruction, qui ne savait même pas signer son nom, un pape, oui, un pape, est monté sur une petite caisse à savon ou quelque chose comme ça et il s'est mis à prêcher. Il a dit, « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes servantes et sur mes esclaves, je répandrai de mon esprit, et elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Du feu, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. » Et il a continué et a parlé de David et ainsi de suite. Et alors que les critiqueurs se trouvaient là, alors ils ont dit, « Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?»« Oh, attention, Pierre, les clés sont sur toi maintenant. » Pas vrai? Le premier message de l'Évangile. Jésus, quelques jours auparavant, avant qu'il ait été crucifié, il avait dit, « Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu liras, je le lirai. Ce que tu déliras, je le délirai. Alors, quoi que tu fasses, j'en reconnaîtrai la validité dans les cieux. S'il est un homme de parole, il tiendra sa parole. Et le voici qu'il se tient là, après que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Et on demande à Pierre, « Que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Attention, là tu introduis la clé dans le royaume pour la première fois. Jésus t'a dit, il y a quelques jours, il y a 10 jours, il a dit, « Allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Que vas-tu faire? Mais il t'a donné les clés parce que tu as eu une révélation spirituelle. Car mon église sera bâtie et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Alors, optez pour vos credos et vos dogmes et tout ce que vous voudrez. Mais ces choses échoueront lamentablement. Elles l'ont fait. Par contre, la puissance du Dieu vivant avancera toujours plus loin, jusque dans l'éternité, comme une petite quantité de radium. Elle continue à avancer. Remarquez, sans fin. Pierre, tu as les clés. Quoi que tu fasses ici, Dieu devra en reconnaître la validité dans les cieux. Pas vrai? Que dis-tu, Pierre? Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit, n'allez pas dire, je vous salue Marie. Ça n'existe pas, ça. Faire une neuvaine. Ne venez pas donner une poignée de main et mettre votre nom sur le registre de l'Église et qu'on vous asperge d'un peu d'eau. Ça n'existe pas, ça. Ce sont là des dogmes catholiques auxquels se plie l'Église protestante. Il n'a pas dit, allez tous, là. Jésus m'a dit, il y a quelques jours, que vous devez tous aller vous faire baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Non, un homme qui a eu une révélation spirituelle ne dirait pas ça. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, c'est ça. Alors la clé a été introduite, et cela a été mis sous clé. Cela a été mis sous clé dans les cieux. C'est pour cette raison que Paul a dit aux disciples de Jean, « Il faut vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous ne le saviez pas avant, vous le savez maintenant. Ah, tout est en ordre. C'est à vous de décider. C'est vrai, mais un baptême trithéiste, train, n'a jamais été reconnu comme valide dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Seulement dans l'Église catholique. Et l'Église protestante se plie à cela. Observez. Bien des gens se fâcheraient avec vous à cause de ça. Mais frère, vous devez faire votre choix. Maintenant vous dites, frère Branham, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Je ne doute pas de votre parole. Je n'ai absolument aucune raison de douter de votre parole. J'y crois. Je crois que Dieu a donné le Saint-Esprit là-bas à ces gens avant même qu'ils aient été baptisés. Mais quand Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire, ils sont allés le faire. C'est vrai. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. C'est vrai. Et si vous refusez de marcher dans la lumière, quand la lumière est présentée, vous vous tournez vers les ténèbres. C'est vrai. Amen. Très bien. Excusez-moi. Je ne veux pas m'excuser de m'écrier qu'il en soit ainsi face à la parole de Dieu. Non, monsieur. Je crierai encore « Amen ». C'est vrai. Oui, monsieur. Pourquoi baptiser au nom de Jésus-Christ, frère Branham? Pourquoi faites-vous cela au lieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Est-ce clair? Pourquoi Lavez-vous les pieds, frère Branham, parce que c'est ce que la Bible enseigne. Je crois au plein évangile. Bon, très bien. Quel est le faux baptême dont vous parliez? C'est celui-là. C'est précisément celui-là. Nulle part. Allez lire le Testament et trouvez un endroit où une personne... Maintenant, chers amis, je ne cherche pas à vous blesser. Je ne veux pas le faire. Je vous demande d'être humble et de ne pas... Regardez la chose en face et voyez ce qu'il en est. Confrontez cela avec la Bible, non pas avec votre Église, ni avec la conception mentale insensée, ridicule, de quelqu'un qui s'est enflé d'orgueil. Mais regardez la parole de Dieu, bien sûr. Pensez-vous que le Dieu Tout-Puissant me confierait ce ministère qu'il présente partout, comme ceci, accompagné de signes surnaturels et de choses qui ne se sont jamais vues depuis le Nouveau Testament, comme ça, tout en me laissant marcher dans l'erreur? Bien sûr que non. Et frère, quand je rentrerai de l'étranger, je consacrerai la plus grande partie de mon temps, non pas à la guérison divine et aux miracles, mais à prêcher la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai, assurément. Maintenant, voyons un peu. Cette Église-ci enseigne-t-elle qu'il faut parler en langue pour recevoir le Saint-Esprit? Non, monsieur. Non, nous n'enseignons pas ça. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit, vous voyez? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un don. Cet arbre produit 9 sortes de fruits, pas vrai? Si vous regardez un pommier et qu'il a des pommes, vous dites que c'est un pommier. Si vous regardez un arbre et qu'il a des poires, vous dites que c'est un poirier. Même s'il a l'écorce d'un sycomore, peu importe, s'il porte des poires, la vie de cet arbre, qu'est-ce que c'est? La vie de cet arbre est une vie de poirier, pas vrai? Or, cet arbre de Dieu produit 9 fruits spirituels, pas vrai? Très bien. Il y a toutes sortes. Il est dit, à l'un est donné l'enseigne, la connaissance, la sagesse, l'intelligence et le parler en langue, l'interprétation des langues. 9 dons spirituels différents poussent sur cet arbre de Dieu. Pas vrai? Bon, eh bien, il n'y a pas que le parler en langue. Ce n'est pas le seul. Il y en a aussi d'autres dedans. Bon, vous pouvez parler en langue sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Je me suis trouvé, j'ai vu des sorciers et des magiciens arriver là et parler en langue. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous savez, je les ai vus arriver là et pousser des cris et sauter. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, je me suis tenu là au moment de la danse du maïs, à près de Douglas, en Arizona, là-bas. J'ai vu cette danse du maïs au moment où ils ont ça, là-bas. Et ce magicien est arrivé et il se conduisait d'une manière terrible et tout. Il se conduisait n'importe comment. Il jetait de la terre sur lui, là. Ça ne veut pas dire qu'il était sauvé. Cet homme était un sorcier. Je me suis trouvé en Inde, en Afrique, et j'ai vu des sorciers venir me défier, comme ça, avec leurs enchantements, et ils buvaient même du sang dans un crâne humain. C'est vrai, vous avez intérêt à savoir ce que vous dites quand vous affrontez ces choses. Mais j'ai vu la puissance du Dieu Tout-Puissant lier cet homme, si bien qu'il ne pouvait plus bouger. Et alors, il avait les yeux vitreux, comme ça, et on l'a emporté. Oui, monsieur. Frère, Dieu est réel, c'est vrai, mais Dieu est en esprit. Il ne se borne pas strictement au parler en langue ou à ceci, cela, autre chose. Je dis que tout homme qui... C'est ça le problème ici, dans l'Église. Vous voyez, vous, les pentecôtistes ont poussé cette chose-là à l'extrême. Auprès des gens, ils se sont mis, au lieu de leur imposer les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils les ont fait s'avancer à l'autel et se sont mis à leur taper sur le dos en criant « Dis-le, dis-le, dis-le !» Et ils répétaient un mot sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils aient de la confusion et non des langues. Si quelqu'un qui a eu l'authentique Saint-Esprit est né de l'Esprit de Dieu, il mènera une vie sainte. Certains de ces hommes-là menaient des vies terribles, vous le savez, et leurs fruits prouvaient qu'ils ne l'étaient pas. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est un don de l'Esprit. Pierre n'a jamais dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le Saint-Esprit. » Il a dit « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Au moment où ils entendaient ces langues et ces gens qui parlaient, c'est un des dons du Saint-Esprit qu'ils reçoivent là. Amen. Très bien. Il faut que je me dépêche. J'ai 2 garçons, un de 2 ans et un de 5 ans, et ils ont été aspergés. Devraient-ils être baptisés par immersion? Bon, eh bien, sœur ou frère, qui que vous soyez, c'est à vous de décider. J'ai une petite fille, mon petit garçon, Billy Paul, avait 16 ans et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus ici même. Ma petite fille avait 8 ans, elle est venue vers moi, elle s'est assise sur mes genoux et elle a dit, « Papa, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ et je veux me faire baptiser. » Et j'ai baptisé cette petite fille-là à l'âge de 8 ans. quand, si ces petits-là veulent se faire baptiser, baptisez-les. Sinon, eh bien, s'ils... Allez-y, c'est à vous de décider, selon ce que le Seigneur aura dit. Est-ce que seulement ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit seront pris dans l'enlèvement de l'Église? Ou bien, est-ce que tous les croyants y seront indiqués? Nous n'avons pas le temps de justifier cette affirmation. Mais frère, seulement l'épouse remplie du Saint-Esprit sera prise dans l'enlèvement. Voyez, la Bible, les autres ne seront pas perdus. Regardez, qui va juger la terre? Les saints. Daniel a dit, « Je l'ai vu s'avancer vers l'Ancien des temps, et il vint accompagné de myriades de ses saints. » Pas vrai? L'enlèvement, l'Église s'en était allée. Après quoi ils sont revenus, et le jugement s'assit. Les livres furent ouverts, pas vrai? Et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie, le croyant sanctifié qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Jésus n'a-t-il pas enseigné que 10 vierges étaient sorties à la rencontre de l'époux, et 5 d'entre elles, ou toutes, elles étaient vierges, pures, saintes, et elles, celles-ci s'étaient endormies et n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et celles-ci avaient reçu le Saint-Esprit. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Et quand l'époux est venu, que la voix est venue, le cri, elles ont dit, « Oh, entrons, donnez-nous de votre huile. » Il a dit, « Allez chez ceux qui en achètent. Mettez-vous en condition par la prière. Recevez-le maintenant. » Mais elles ne pouvaient pas. Et pendant qu'elles y sont allées, les vierges sont entrées au souper des noces. Et elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, où elles pleuraient, gémissaient et grinçaient des dents. N'est-ce pas que dans Apocalypse, hier soir, au chapitre 12, avant-hier soir, il nous a été enseigné que le dragon rouge lançait de sa bouche de l'eau pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, qui avait foi en Dieu et qui gardait les commandements de Jésus-Christ. Vous, les femmes, quand vous posez un patron, c'est une belle pièce de tissu, du même tissu, mais vous prenez, disons, comme ceci. Vous posez votre patron exactement comme vous avez l'intention de le tailler. Ensuite, vous le taillez. C'est vous qui décidez. Mais vous prenez le tissu que vous avez taillé, qui sera utilisé pour faire votre vêtement. Et ce qui reste servira. Ce tissu est aussi bon que le reste, mais par élection, vous avez choisi ça, pas vrai? Ce qui reste est aussi sain, est aussi bon, vaut aussi cher que le reste. Mais ce que vous avez choisi, c'est cela. Et Dieu a promis que nous allions partir dans l'enlèvement, par élection. Et la Bible dit, « Et les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. » Pas vrai? Parce que seulement, vous ne serez pas perdus. Mais c'est l'épouse remplie du Saint-Esprit qui partira dans l'enlèvement. Les autres passeront au jugement, alors qu'elle, non. Si on doit baptiser au nom de Jésus, dans ce cas, pourquoi Jésus a-t-il dit dans Matthieu 28 d'être baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? C'est justement ce que je viens d'expliquer, cette question-là. Est-ce que la fatigue commence à vous gagner? Je sais que oui. Mais Dieu n'a-t-il pas égard au baptême du Père, du Fils, du Saint-Esprit? N'est-ce pas qu'il y a des personnes baptisées dans ce nom, dans ces noms, et qui ont reçu le Saint-Esprit? Jésus est-il venu glorifier le Père? N'est-ce pas que ce baptême serait reconnu comme valide? Oui, Jésus est venu glorifier le Père. Regardez dans Jean au chapitre 14. Si vous voulez bien attendre, peut-être encore 3 et nous aurons terminé, je crois. Regardez, et demain nous en aurons de nouvelles. Là, parce que j'en recevrai sûrement quelques-unes en réaction à ce soir, je crois. Remarquez, mais ceci, c'est le culte, ceci. Nous continuons. Regardez, Jésus est venu manifester le Père. Regardez, au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Pas vrai? Eh bien, Dieu, qu'est-ce que c'est? Un esprit. Dans Jean, au chapitre 4, Jésus, en parlant à la femme au puits, il a dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Pas vrai? Si Dieu a fait l'homme à son image, alors quel genre d'homme a-t-il fait? Un homme esprit. Dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, et Dieu a formé l'homme de la poussière, non pas à son image à lui, mais à l'image de la vie animale. Il a placé l'esprit de l'homme dans cet homme animal-là, et celui-ci est devenu une âme vivante. Or, voilà la différence entre l'homme et l'animal. L'animal ne construit pas des automobiles et ne fait pas des choses susceptibles de lui rendre la vie plus facile, et ainsi de suite. C'est un animal, une bête, il n'a pas d'âme. Il ne sait pas lire et écrire. Il ne sait pas converser, parler. C'est une bête. Par contre, l'homme est dans une chair semblable à celle de la bête. Mais il a en lui une âme qui vient de Dieu, ce qui le rend immortel. Il peut inventer. Regardez tout ce qu'il peut faire. Il est presque égal à Dieu, parce qu'il est un fils de Dieu, même dans son état déchu. Il est merveilleux. Regardez-le. Voyez, c'est ça. Ensuite, quand l'homme est tombé dans la chair, si Dieu avait envoyé un individu autre que lui-même, il aurait été injuste. Le seul moyen pour Dieu de le faire d'une manière juste, c'était de prendre lui-même la place de l'homme. Supposons que je fasse mourir frère Neville pour cette femme-ci. Supposons que je fasse mourir cette femme pour cette femme-ci. S'il se trouvait que j'ai ce pouvoir-là sur vous, je ne pourrais pas être juste et faire ça. Si je prononçais une sentence de mort et que je désirais que vous viviez pour vous justifier, il faut que moi, je prenne votre place. Et alors Dieu, qui était à l'image de l'Esprit, ou plutôt sans image, la Bible dit que Dieu est sans forme. Très bien. Alors il fallait que Dieu prenne une forme. Et il a couvert une vierge de son ombre et a créé en elle une cellule sanguine, sans rapport sexuel ni rien de semblable. Il a créé une cellule sanguine qui s'est développée pour former le Fils de Dieu. Et Dieu est descendu et habité dans son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci était donc Dieu sur terre. Quand, dans Jean, Thomas a dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ?» Il a dit, « Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ?» Voyons, il a dit, « Quand tu me vois, tu vois le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. » Il n'y a pas longtemps, pendant que je parlais, une dame s'est levée d'un bond. Elle a dit, « Oh, frère Branham !» Elle a dit, « Je sais ce que vous voulez dire. Ils sont un, bien sûr qu'ils sont un. » Elle a dit, « Vous et votre femme aussi, vous êtes un. C'est de cette manière-là qu'ils sont un. » J'ai dit, « Pardon. » J'ai dit, « Pas eux. » J'ai dit, « Me voyez-vous ?» Elle a dit, « Bien sûr. » J'ai dit, « Voyez-vous ma femme ?» Elle a dit, « Non. » J'ai dit, « Voilà. » Donc leur unité, c'est autre chose que celle de moi et ma femme. Voyez, j'ai dit, « C'est vrai. » Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas me voir sans voir le Père. » Bien sûr que non. C'est la deuxième partie de la règle graduée de 90 cm, de cette même règle. C'est Dieu. Jésus-Christ était ou bien Dieu, ou bien le plus grand imposteur que la terre ait jamais porté. Écoutez, il n'y a pas longtemps, une femme a dit, elle a dit, « Je vais vous le prouver. » Une femme de la science chrétienne. Maintenant, mon ami de la science chrétienne, un instant, soyez respectueux. Vous voyez, elle a dit, « Je vais vous prouver qu'il n'était qu'un homme. » Elle a dit, « Vous faites trop de cas de Jésus. » J'ai dit, « Même si je le longeais jour et nuit, je ne pourrais pas lui donner tout ce qu'il mérite. » J'ai dit, « Ce n'est pas étonnant. » Eh bien, Ésaïe a essayé de le nommer. Il a dit, « Il est admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. » Tout cela, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, dit la Bible. La plénitude de Dieu était en lui. Elle a dit, je vais vous dire une chose, quand il est allé prier pour Lazare, ressusciter Lazare, elle a dit, je vais vous prouver qu'il n'était qu'un homme. J'ai dit, j'aimerais vous voir le faire. Elle a dit, la Bible dit qu'il pleura. C'est la preuve qu'il était un homme. Il pouvait pleurer. J'ai dit, bien sûr, c'était le Fils qui pleurait. Il était un homme Dieu. Il était un être train, tout comme moi, tout comme vous. Nous sommes âme, corps et esprit. Il était Père, Fils et Saint-Esprit, la divinité de Dieu. Voilà qui il était. Il était la divinité lui-même. Comment pouvait-il faire quoi que ce soit là-bas, alors que ses propres enfants réclamaient son sang? S'il s'était agi d'autre chose, c'était là ses propres enfants qui réclamaient son sang. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pleuré à cause d'eux. Comment est-ce qu'un homme, alors que ses propres enfants réclamaient son sang, quel pouvait être son sentiment? Soit de les condamner aux peines de l'enfer pour toujours, ou bien de donner sa vie. Il était Dieu qui donnait sa vie pour ses enfants. La divinité habitait en lui. Voilà qui il était. Cette femme a dit, regardez, elle a dit, révérend Branham, je vais vous le prouver. Quand il a pleuré, c'était la preuve qu'il était un homme. J'ai dit, madame, il était un homme quand il prie ou quand il pleurait. C'est vrai, il était un homme quand il pleurait. Mais quand il a redressé son petit corps frêle et qu'il a dit à un homme qui était mort depuis 4 jours, Lazare, sors! Alors, un homme qui était mort depuis 4 jours, qui se décomposait, les vers de sa peau étaient en train de le ronger. La corruption a reconnu son maître et l'âme a reconnu son créateur. Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé sur ses pieds et a repris vie. C'était là plus qu'un homme. Il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là. Il avait faim. Il a regardé un arbre, cherchant du regard quelque chose à manger. Il était un homme quand il cherchait là quelque chose à manger sur ce figuier. Mais quand il a pris 5 petits pains et 2 morceaux de poisson et qu'il a nourri 5 000 personnes, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu là à l'intérieur. Le seul créateur qui a pu prendre un poisson cuit et le rompre, et que ce soit toujours un poisson cuit, qui a pris du pain cuit et l'a rompu. Quelle sorte d'atome a-t-il mis en mouvement? Alléluia! Il était Dieu, le créateur des atomes et de toutes choses. C'était là plus qu'un homme. Il était un homme quand il était là-bas, sur ce bateau, ce soir-là, après avoir prêché toute la journée et guéri les malades. Il était tellement fatigué que 10 000 démons de la mer s'étaient jurés de le noyer. Ce petit bateau là-bas, agité dans tous les sens comme un bouchon de liège, les grandes vagues qui arrivaient comme un éclair de tous côtés. Et lui, il était couché là, tellement fatigué que ces vagues ne l'ont pas réveillé. Les démons étaient rugissants. Ils disaient, « Maintenant, on va la voir pendant qu'il dort. » Mais quand il s'est réveillé, qu'il s'est réveillé là-bas, il était un homme, il était tellement fatigué. Mais quand il a posé le pied sur le bastingage du bateau, qu'il a regardé, qu'il a dit « Silence, tais-toi !» et que les vents et les vagues lui ont obéi. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu, le Créateur, qui a fait les cieux. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre ait dit « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» C'était plus qu'un homme. C'était Dieu. Il était un homme quand on l'a cloué à la croix comme sacrifice pour ôter le péché. Il était un homme à qui on a enfoncé des clous dans la main. Il était un homme qu'on a couronné d'épines. Il était un homme couvert des crachats moqueurs des soldats. Il était un homme qui était brisé, meurtri, blessé. Il était un homme. Il était un homme quand il s'était crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était un homme qui appelait à l'aide. Mais le matin de Pâques, quand les sceaux de la mort ont été rompus là-bas au sépulcre, c'était plus qu'un homme. Il a prouvé qu'il était Dieu. Par sa vie, il m'a aimé. Par sa mort, il m'a sauvé. Par son ensevelissement, il a emporté mes péchés au loin. Par sa résurrection, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux! Oh, alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon Sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Ce n'est pas étonnant qu'Eddie Perronnet se soit écrié, que tous acclament la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent devant lui, apportez le diadème royal et couronnez-le Seigneur de tous. C'est cette personne extraordinaire, le Seigneur Jésus. Il était Jéhovah, Dieu voilé dans une chair. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout en son nom. La Bible dit, toute la famille dans les cieux se nomme Jésus, et toute la famille sur la terre se nomme Jésus. Prions en son nom, vivons en son nom, enseignons en son nom, mourons en son nom, soyons ensevelis en son nom, soyons baptisés en son nom, ressuscitons en son nom, allons au ciel en son nom. Voilà son nom, et son épouse se nomme Madame Jésus. Il fera sortir du milieu des nations un peuple à cause de son nom. Et je ne suis pas unitaire. Non, monsieur, vous les trinitaires, débarrassez-vous de cette idée-là. Je ne suis pas unitaire. Non, monsieur, je ne suis ni unitaire ni trinitaire. Je crois ce que dit la Bible. C'est exact. Amen. J'en mettrai sur une seule question. Qu'est-ce que c'était déjà? Est-ce que j'ai vidé la question? Ou voyons un peu, qu'est-ce que c'était? Oh oui, c'est ça, à propos de comment le Père était en Christ. Il était un homme, il était un homme Dieu. L'Église pentecôtiste ne baptise-t-elle pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Certaines d'entre elles. Si quelqu'un meurt sans avoir le baptême du Saint-Esprit, sera-t-il perdu? Non, monsieur, s'il est un croyant, il reviendra à la résurrection, à la seconde résurrection. S'il a le baptême, il aura part à la première résurrection. Bon, là, il faut presque me croire sur parole. Si ce n'est pas satisfaisant, alors vous n'avez qu'à me le demander. Je vous fournirai des références bibliques. C'est que j'essaie de répondre encore à 2 ou 3 questions ici. Ensuite, nous serons terminés. Frère Bill, la Bible dit-elle quelque chose à propos des jeux d'argent? Oui, elle en parle, mais je ne pourrai pas citer le passage en ce moment. Je sais que les soldats ont tiré ses vêtements au sort, et ainsi de suite, mais je ne pourrais vous dire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer 1 Corinthiens 15-29 ? S'il te plaît, trouve-moi ça, Fresneville, là, 1 Corinthiens 15-29. Nous allons trouver ça. Bon, et peut-être que demain, je pourrai revenir là-dessus pour vous. Par exemple, sur ces lettres-là, comment déchiffrer cela ? Vicarius Filii Dei. Si vous le désirez, faites-le-moi savoir. La prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 s'accomplira-t-elle avant l'enlèvement ? Je ne pense pas. Je pense que ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ça, alors, quand Gog et Magog descendent, ça, ce sont les armées russes qui arrivent. Regardez, Monsieur Bohannon, qui était autrefois directeur de l'entreprise de service public, un très bon chrétien. Un jour, il m'a parlé. Il a dit, « Billy, j'ai essayé de lire et j'ai essayé de demander à mon pasteur d'expliquer l'Apocalypse. » Il a dit, « Nous avons pris cela et nous avons tout confondu. » Il a dit, « Jean a dû manger quelque chose ce soir-là. » Et il a fait un rêve. J'ai dit, « Monsieur Bohannon, honte à vous. » J'ai dit, il a dit, « Eh bien, personne ne peut comprendre cela. » J'ai dit, « Non, aucun homme naturel, mais le Saint-Esprit peut le révéler. » Il a dit, « Eh bien, regarde Billy. » Il a dit, « L'épouse se tenait sur le mont Sinaï. Et ici, l'eau était lancée de la bouche du dragon pour faire la guerre, guerre à l'épouse. Et l'épouse était dans le ciel au même moment. Va donc comprendre. » J'ai dit, « Monsieur Bohannon, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez confondu trois choses différentes. Ce que vous appelez là l'épouse. Vous appelez les 144 000 qui se tenaient avec l'agneau sur le mont Sinaï l'épouse. Ils ne l'étaient pas. Vous appelez ceux à qui il a lancé de sa bouche de l'eau pour leur faire la guerre. Le reste de la postérité de la femme, ce n'était pas l'épouse. Eux, c'est ce qui restait. L'épouse était dans le ciel. Les 144 000 étaient là. Et le chrétien de nom, ici, allait subir la persécution. C'est exact. Maintenant, lis, frère, si tu l'as. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Bon, maintenant, frère, il y a un groupe de gens qui croient ça, qui baptisent pour les morts. Ce sont les Mormons. Et j'ai été dans leur temple, bien des fois. Ce sont des gens très bien. Il se peut que vous soyez Mormons, là. Je ne cherche pas à vous blesser. Mais, mon cher ami, vous ne pouvez pas vous faire baptiser pour votre père. C'était à lui d'accomplir cet acte-là. L'arbre tombe du côté où il penche. C'est Paul qui parlait ici. Il parlait du mort, Jésus-Christ. Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi vous faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ? Alors, si les morts ne ressuscitent pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors vous, il a dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Mais il poursuit en rendant gloire à Dieu pour la résurrection des morts. Et nous sommes baptisés pour Jésus-Christ en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Voilà pourquoi nous sommes baptisés pour les morts. Très bien. Je crois que là, il ne reste peut-être qu'une question après celle-ci. Frère Bill, s'il vous plaît, dites-moi comment obtenir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce par la prière, par une vie abandonnée à Dieu ou en l'acceptant comme nous acceptons la guérison? Je sais ce que c'est qu'avoir la foi pour la guérison. Après que vous avez prié pour moi ici, est-ce que vous priez et imposez les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, dites-moi si je dois me faire rebaptiser au nom de Jésus, comme vous en avez parlé dernièrement. Maintenant, mon cher ami chrétien, là, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je ne fais que préciser ce que dit l'Écriture. Et le savez-vous, là, le Saint-Esprit peut venir à l'instant même, pendant que nous parlons. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Voyez, c'est un don de Dieu. Il pourrait venir pendant que nous parlons. Et je vais vous dire une chose. Quand, si les gens étaient bien enseignés, certains d'entre vous, les vieux de la vieille, ici, je vais vous demander quelque chose. À vous, les vieux de la vieille, qui avez fréquenté ce tabernacle, quand je baptise les gens, observez. Et vous, les ministres, suivez cet exemple. J'ai pris soin d'apporter aux gens l'enseignement, si bien qu'ils mettaient de l'ordre dans leur vie avant qu'ils s'approchent de l'eau. Et je les amenais à croire que Dieu était tenu d'exécuter sa promesse, que dès qu'ils se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était là pour accepter cela. Et quand ils ressortaient de l'eau, ils recevaient le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous n'avez qu'à, berger, enseigner à vos brebis, amenez-les dans la Bible, ici. Laissez tomber le vieux manuel d'une église quelconque et prenez ce qu'il y a ici dans la Bible, là où c'est Dieu qui a enseigné, et vous n'aurez pas ces problèmes. Oui, par l'imposition des mains, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, par l'imposition des mains d'une personne ointe. Frère Bill, c'est... Est-ce du désordre que quelqu'un se lève et donne des messages en langue pendant que le prédicateur donne la... dispense la parole? Cette personne a trois questions ici. Et la suivante est... De plus, est-ce du désordre de faire la même chose pendant l'appel à l'autel? Troisième question. De plus, c'est... Est-ce du désordre que quelqu'un se lève dans l'église et réprimande un ministre à propos de quelque chose qu'il a dit ou qu'il a fait pendant la réunion, alors que celui-ci est derrière la chair sacrée? Toutes ces choses ont été faites plusieurs fois au tabernacle. Bon, je vais répondre à ceci rapidement, là. Or, ceci concerne l'Église. Maintenant, aux nouveaux venus parmi nous, je dois maintenant donner une petite fessée à l'Église. Alors, si vous voulez bien patienter pendant un petit instant, vous voyez? Écoutez, mes enfants, ces dons sont merveilleux. Personne ne sait combien je vous apprécie et vous aime de l'amour divin. Mais ces dons peuvent vous faire du tort si vous ne les utilisez pas là où il faut. Regardez les gens aujourd'hui, des hommes très bien qui sont là, sur le champ de travail, qui prient pour les malades et les font payer pour le faire. C'est mal. Si un homme a la foi pour la guérison et qu'il prie pour les malades, il devrait être assez noble pour prier pour les gens sans qu'il soit question d'argent. Dieu merci. Frère, je tiens à dire cela, non pas en ma faveur, mais pour la gloire de Dieu. Pas une seule fois je n'ai soutiré de l'argent aux gens, ni rien comme ça. En fait, j'ai refusé un montant $2,500,000 qui m'avait été donné comme offrande. Et vous êtes au courant, c'était ici même, dans le journal. Voyez, c'est vrai, ce n'est pas pour... Quand vous ferez ça, vous perdrez votre foi, là, auprès de Dieu. Maintenant, vous qui parlez en langue, qui avez des dons de langue, que Dieu vous bénisse. On a besoin de vous dans ce tabernacle. Je tiens à vous avoir ici. Mais bon, là, la chose se fait dans l'ordre. Ne faites jamais cela pendant que le prédicateur est en train de prêcher. En agissant ainsi, vous faites du désordre, voyez. Vous ne devez pas faire ça. En effet, la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et quand un homme est en train de prêcher, c'est lui qui a la parole, c'est lui qui a l'auditoire, c'est à travers lui que le Saint-Esprit va parler. Une fois qu'il a terminé, alors c'est le moment du message, vous voyez? Donc, ne faites pas de désordre. Si vous le faites, alors vous interrompez et vous attristez le Saint-Esprit pendant ce message qui est proclamé. Il n'y a pas longtemps, je me trouvais à une réunion quelque part à Washington. Il y avait plusieurs milliers de personnes assises là. Et l'organisateur de mes réunions, qui est un vrai commentateur de la Bible, était en train de parler de la guérison divine. Il était loin. Le Saint-Esprit parlait. Une dame s'est levée et s'est mise à parler en langue. Il a attendu un instant, puis il a repris. Le Saint-Esprit a commencé, attristé. On pouvait percevoir cela parmi les gens. Il a recommencé à parler et elle s'est levée. Il a dit, « Sœur, asseyez-vous au nom du Seigneur. » Il a dit, « Vous faites du désordre. » Et les ministres l'ont pris à part et lui ont dit ce qu'il en était. Or, ce qu'il y a, c'est que ces dons sont dans le monde. Ils sont dans l'Église en ce moment. Les dons sont dans l'Église. Mais les pauvres petits-enfants, ils reçoivent ces dons sans avoir l'enseignement qui leur permet de savoir les maîtriser. Si vous les maîtrisez mal, vous ferez plus de tort que de bien. Voyez? C'est comme un homme qui va prier pour les malades et quelqu'un est guéri. Il lui dit, « Maintenant, il faudrait me donner $1,000 pour ça. » Or là, il a fait plus de tort que de bien. Il aurait été préférable que cet homme-là meure plutôt qu'un tel opprobre soit jeté sur la cause de Christ. Maintenant, quand le pasteur ou l'évangéliste ou qui que ce soit est en train de prêcher, gardez le silence. C'est Paul qui a dit de le faire, vous voyez? Bon, et puis il a dit, vous pouvez tous parler successivement. C'est absolument vrai. Et il a dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'est bien, mais vous ne pouvez pas parler en langue à moins d'avoir le don des langues. Et il ne fait aucun doute qu'il y a de nombreux dons de langue dans cette église en ce moment. Il y a de nombreux dons de langue là-bas, dans l'église méthodiste. Il y a de nombreux dons de langue là-bas, dans l'église baptiste. Si seulement on prêchait de sorte que ces dons entrent en action. Comment? Si vous mettez une semence en terre et que vous ne la cultivez pas, qu'arrivera-t-il? Vous voyez, elle va rester là, dans la terre sèche. Elle va pourrir. Elle ne produira rien de bon. Ces dons ont toujours été dans l'église. Mais ce n'est que maintenant que l'eau s'est mise à descendre, la pluie pentecôtiste, pour les arroser et produire du fruit. Maintenant, utilisez-les là où il faut. Maintenant, il est dit, eh bien, je crois que la question suivante, là, c'était, cette personne demandait, elle a dit, quand on fait un appel à l'autel? Non, pas à ce moment-là, je ne pense pas. Si vous remarquez, et si vous prenez dans Corinthiens et que vous lisez ça, certains d'entre vous ici, si vous avez les dons du parler en langue, alors faites attention. Dans la Bible, quand ils avaient, après la réunion, la bénédiction de Dieu qui descendait sur l'assemblée, c'est là qu'ils se mettaient à parler, c'est là qu'ils se mettaient à glorifier Dieu. Et chaque fois, c'était un message adressé directement à quelqu'un. Et non pas, il faut faire très attention là. Voyez, ce n'est pas quelque chose qui est simplement poussé par la chair. Ce sera un message adressé à quelqu'un, disant à quelqu'un de faire quelque chose, ou bien quelque chose qui servira à édifier l'Église. Ce sera quelque chose qui servira à glorifier l'Église. C'est ainsi que les pentecôtistes ont jeté l'opprobre sur leur nom, le nom même de Pentecôte. Vous pouvez le mentionner, et les gens s'éloignent en disant, quel non-sens, parce qu'ils ont vu beaucoup d'excitation, alors que ces gens, ils étaient sincères, mais ils n'avaient pas reçu l'enseignement. Paul a dit, quand je viendrai chez l'Église pentecôtiste, là-bas, il a dit, j'y mettrai de l'ordre. Il faut que ce soit en ordre. Tout doit être fait avec ordre, exactement comme le Saint-Esprit l'a ordonné. Donc, il a dit, or, si on entre et que vous vous mettez tous à parler en langue, qu'un simple auditeur entre, il dira, mais vous êtes tous fous. Il ressortira. C'est exactement ce que fait l'Église pentecôtiste. Il a dit, mais si, au lieu de cela, l'un de vous prophétise et révèle les secrets de quelque chose, si l'un de vous est prophète, autrement dit, il a dit, alors, n'est-ce pas que les gens tomberont sur leur face et diront que Dieu est au milieu de vous? Eh bien, comment pourrais-je nier le don de parler en langue, alors que pour ça, il me faudrait nier le don de prophétie, il me faudrait nier ces autres dons? Or, la plupart des églises, des grandes églises, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et ainsi de suite, ils croient que si un homme parle en langue, il est un démon. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon pour ça. C'est ce que les Juifs ont fait. Ils se sont moqués des gens qui avaient le Saint-Esprit. Et ils ont été condamnés et perdus à cause de ça. C'est exact. Jésus n'a-t-il pas dit, « Si vous dites un seul mot contre le Saint-Esprit, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Alors, soyez prudents. Si vous ne comprenez pas, restez tranquilles. Et vous, qui avez le Saint-Esprit, et qui avez été appelés à remplir des fonctions, docteur, maintenant, pouvez-vous imaginer, je suis ici, en train d'essayer d'apporter un enseignement. Et voici un homme qui se lève d'un bond et vient se mettre à enseigner à côté de moi, au même moment, alors qu'un autre homme est là, en train de chanter un chant de jubilé. Eh bien, quelle confusion! Eh bien, c'est pareil pour le parler en langue. Que ce soit fait avec ordre, selon que l'Esprit le donnera, vous pourrez alors parler en langue. Maintenant, vous dites, « Eh bien, frère Branham, je ne peux pas m'en empêcher. » Oh, si, vous pouvez. Paul a dit que vous le pouviez. Il a dit, si l'un de vous, parmi vous, parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Peu importe combien grand est le désir de parler, taisez-vous. C'est un don, frère. Je prie que Dieu me permette de faire des réunions de réveil ici, un de ces jours, pour que nous puissions vous présenter ces choses-là en profondeur. Vous voyez, là, vous pourrez voir que c'est un don. Et ce don, il veut se manifester tout le temps. Voyez, mais il vous faut avoir là la sagesse du Saint-Esprit, afin de savoir quand et comment faire entrer ce don en action. Et ce, vous dites, eh bien, gloire à Dieu, la Bible dit qu'après que le Saint-Esprit est venu, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Le docteur, c'est lui-même. Oh frère, comment pouvez-vous être aussi puéril en lisant l'écrit? Dans ce cas, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'Église? Vous dites, je n'ai besoin de personne pour m'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Il le fait au moyen d'un docteur. Il a établi des docteurs dans l'Église. Il a dit, tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils des dons de guérison? Le Saint-Esprit a établi ces choses dans l'Église et il les met toutes en action. Chacune entre en action avec ordre. Bon, c'est exactement comme mon pied. L'un d'eux qui dit, je m'en vais dans cette direction-ci. L'autre qui dit, je m'en vais dans cette direction-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La main qui dit « Je vais monter » et l'autre qui va dans cette autre direction. Dans quel état va se retrouver le corps? Voyez? Bon, mais si la pensée ici dit « Pied, avance » et tous les deux, main, suis-les. Tête, reste bien droite. Bras, faites la même chose. Tout marche dans l'harmonie. Maintenant, une fois arrivé là, je n'ai pas encore utilisé mes bras. Là, les pieds ont fait leur devoir. Le pasteur a fini de prêcher. Maintenant, bras, faites votre devoir. Voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, mais supposons que les bras se tendent comme ceci. Oh, mais où est-ce ? Où est-ce ? Pendant que les pieds sont en train de prêcher. Vous voyez ? Vous n'y êtes pas encore. Voyez ? Garde le silence, bras. Un peu plus tard, ce sera le moment où tu seras utilisé. Attends d'en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà le don. Voilà le don de l'Esprit à l'œuvre. J'aime le Seigneur. Pas vous ? Amen. Écoutez, je sais une chose dont je peux témoigner en votre faveur. Vous avez vraiment beaucoup de patience. Il est 22h20. Maintenant, mes amis, regardez. Comme ceci, là, ces questions, j'y ai répondu de mon mieux. J'étais obligé de répondre en vitesse à bon nombre d'entre elles. Comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord sur ces choses, ne vous fâchez pas avec moi. Soyez mon frère. Vous voyez, je vous aime. Et si je dis ces choses, c'est uniquement parce que c'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce que je crois. Et c'est de cette manière que je l'explique. Et c'est de cette manière que je l'apporte, en prenant la Bible. Maintenant, si vous dites, « Frère Branham, je ne le crois vraiment pas de cette manière », ce sera tout à fait en ordre. Vous voyez, jamais nous ne penserons que ça change quoi que ce soit. Nous continuerons à être des frères et des amis. Et si vous dites, « Eh bien, moi, je crois que si je fais partie de l'Église méthodiste ou de l'Église baptiste, je serai sauvé quand même. » Très bien, frère, c'est tout à fait en ordre. Je vous appelle toujours mon frère, parce que vous croyez en Jésus-Christ. Voyez, c'est vrai. Donc, nous serons des frères et des amis quand même. Mais je suis simplement en train de préciser à cette Église, pendant ces quelques jours, la position doctrinale de cette Église. Voyez, voilà la position que soutient cette Église. Et s'il y a ici un diacre qui ne croit pas au baptême au nom de Jésus-Christ et au baptême du Saint-Esprit, ni à la manifestation des dons de l'Esprit, ce diacre, pendant que je me tiens ici même, ne mérite pas de se trouver dans l'Église tant qu'il ne sera pas redressé. C'est tout à fait exact. Et le conseil doit veiller à cela. C'est exact. Cette Église n'est pas dirigée par des diacres. Cette Église est dirigée uniquement par la Bible et par le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Donc, ces choses, nous croyons qu'elles sont la doctrine de cette Église. Nous n'avons pas de membres du tout. Personne ici n'est un membre. Par contre, tous ceux qui viennent ici sont membres, car nous croyons que nous sommes tous membres d'un seul corps, par le baptême du Saint-Esprit. Et nous vous contraignons, mon cher frère chrétien ou ma chère sœur chrétienne, à être baptisé au nom de Jésus-Christ et à recevoir le Saint-Esprit. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, après avoir été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Vous dites, « Frère Branham, que dois-je faire à ce sujet ?» La réponse à cette question a été donnée. Je ne peux dire que ce que Paul a dit. Il faut vous faire rebaptiser. Maintenant, regardez bien. Dans Actes, lisez ceci. Galates 1:9. Notez-le, vous qui notez ces choses. Paul a dit, l'homme même qui avait dit ceci, c'est lui qui a enseigné cette chose. Maintenant, croyez-vous cela? Est-ce vrai? Paul leur a dit qu'il devait se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et Paul a dit, si un ange du ciel, Galates 1:8, si un ange du ciel vous enseignait autre chose que ceci, qu'il soit pour vous un anathème, quand même il serait archevêque, quand même il serait pape, quand même il serait ministre, quand même il serait prophète, quand même il serait révérend, quand même il serait un ange du ciel, qui qu'il soit. Il a dit, s'il enseigne autre chose que ceci, qu'il soit pour vous un anathème. Pas vrai? Et il l'a répété. De nouveau, il a dit, je l'ai dit précédemment et je le répète. S'il enseigne autre chose que ceci, qu'il soit anathème. Pas vrai? Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je l'ai lu dans la parole. C'est à vous de prendre votre décision. Maintenant, combien aime ce bon vieux cantique? Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière, enlève toute ma culpabilité, que je sois dès ce jour entier à toi. Je voudrais vous demander quelque chose. À vous, dans cette Église, je suis un homme qui se meurt, en train de prêcher à des hommes qui se meurent. Et je suis conscient que ce sermon est peut-être le tout dernier que je prêcherai. J'essaie de prêcher chacun de mes sermons comme si c'était mon dernier, comme un homme qui se meurt et qui s'adresse à des hommes qui se meurent. Maintenant, je vous demande, à vous, mes frères et mes concitoyens de cette ville et de ce pays, Avez-vous vraiment le sentiment que vous avez besoin d'une marche plus rapprochée avec Dieu après ces réunions? Que Dieu vous bénisse. Moi qui suis votre frère qui vous parle, la prière sincère que je fais pour vous, c'est que vous receviez cette marche plus rapprochée avec Dieu. Et qu'au jour du jugement, alors que de ces soirées où j'ai prêché, il y aura comme un grand enregistrement qui sera passé ce jour-là. Ma voix retentira et je devrai me tenir là et rendre compte de mes paroles, car celles-ci me béniront ou bien me condamneront ce jour-là. Et ces paroles ont été les miennes depuis les 20 et quelques dernières années. En effet, tout jeune, âgé d'une vingtaine d'années, je prêchais l'Évangile et j'ai maintenant 45 ans. Et je n'ai jamais modifié cela en rien, parce qu'il n'y a rien que je puisse modifier, puisque la Bible reste pareille. J'ai enraciné cela dans des évêques et tout le reste, et je n'ai encore jamais vu un seul d'entre eux qui ait pu dire le contraire de cela, en se rapportant à la parole. Ils disent, « Mais bon, ce prêtre ici, il y a quelques jours, il disait, « Révérend Branham, pour nous, ce n'est pas la Bible qui compte, pour nous, c'est l'Église. » Alors, on ne peut pas parler avec cet homme-là. Par contre, si vous prenez la Bible pour base, là, c'est autre chose. Voyez, je prie que Dieu, chacun de mes amis catholiques qui sont ici, et chacun de mes amis protestants, et même, ils ne sont pas plus si quelques, je vous aime vraiment tous. Et Dieu sait si c'est vrai ou pas. Observez, dans la ligne de prière, quand il y a les aveugles et les boiteux, il ne dit pas catholique. Voici un homme, assis ici même, sur l'est, ici même, un catholique qui se mourait, rongé par le cancer. Il est venu chez moi, et le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'a guéri de ce cancer. Il ne lui a jamais dit s'il était catholique ou pas. Je ne lui en ai pas soufflé mort. Il est venu, s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, et a reçu le Saint-Esprit. Voilà l'homme, assis juste là, un homme d'affaires de Louisville. Oui, voyez, il ne demande pas si vous êtes catholique ou pas. Ce qui importe, c'est que votre cœur est faim de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pas vrai? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Combien connaissent ce bon vieux cantique? Béni soit le lien. Combien de personnes ici sont âgées de plus de 40 ans? Levez la main avec moi et dites, je me rappelle ce vieux cantique de 40 ans en arrière. Béni soit le lien. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin, que verse en nous l'Esprit. Vous aimez ces vieux cantiques, n'est-ce pas? Écoutez, je veux dire ceci. Si nous avions plus de ces vieux cantiques, au lieu de toute cette excitation que nous avons, je crois que l'Église serait dans une meilleure situation. J'aime ces bons vieux cantiques qui ont été composés par le Saint-Esprit. Ces vieux de la vieille, autrefois, je me rappelle, un vieil homme de couleur avait l'habitude de s'asseoir derrière la maison, là-bas, dans les montagnes du Kentucky. Quand il était abattu, il s'asseyait sur ce vieux tronc d'arbre. Et il tambourinait sur ce tronc d'arbre. Je me rappelle très bien de lui. Il avait une petite couronne de cheveux blancs. Il chantait ce vieux cantique, un vieux cantique. Je me lèverai, j'irai vers Jésus. Il me prendra dans ses bras, dans les bras de mon cher Sauveur. Oh, je trouve 10 000 joies. Ce n'est pas très mélodieux. Combien ont déjà entendu ce vieux cantique? Oh, c'est bien ça. Écoutez.